Bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez bien prendre place, nous avons un ordre du jour particulièrement chargé. Madame Borrell, si vous voulez faire l'appel.
Abidi Nadia, absente, représentée par Madame Vidal. Aoun Daniel.
Présente.
Blanc Michel. Bodi Bouquet Florine. Bonnet Michel. Brossard Gonfon Anne-Marie. Chérubini Hervé.
Présent.
Clapier Jean-Pierre. Colombet Gabriel. Dourdin Carole. Faverjon Yves. Gay Michel.
On va y chercher. Pourquoi tu cherchais ça?
Michel.
Michel. Giovannetti Michel, absent, représenté par Monsieur Clapier. Guénaud Jacques, absent, représenté par Monsieur Nègre. Guignard Stéphan. Présent. Guillot Pierre. Présent. Ingoglia Angeline. Présent. Jodard Françoise, absente, représentée par Monsieur Blanc. Lapère Pierre. Oui. Lobry Patricia. Marin Bernard. Oui. Marceau Jordan. Milan Henri. Présent. Montagu Claudia. Nègre Yves. Houlet Vincent. Pascal Martine.
Présente.
Perrault Rabès Gisèle. Plo Isabelle. Ponce Frédéric. Rébo Mireille absente, représentée par Monsieur Colombet. Vidal Fuentes Denise. Wild Mireille.
Merci. Merci. Alors, comme lors de chaque séance du conseil municipal, je vous propose d'adopter, si vous en êtes d'accord, le compte rendu de la séance précédente, séance du 10 novembre 2016. Y a-t-il des interventions concernant ce compte rendu? Pas de remarques. Qui est contre l'adoption de ce compte rendu? Abstention? Unanimité. Alors, une fois n'est pas de coutume, je vais vous parler du matériel dans cette salle. Donc la table que vous voyez là, donc, qui a changé de couleur, est la même que celle qu'il y avait précédemment, sauf que, en fait, c'est pas la même, c'est la même conception, c'est le même matériau et tout, mais elle est beaucoup plus neuve, et elle nous vient du Crédit Agricole, de l'agence locale du Crédit Agricole, qui a fait don à la ville donc de cette table, et je tiens en ce début de séance à remercier le Crédit Agricole pour ce don, donc la table, ainsi qu'un certain nombre de chaises, qui sont pas tout à fait identiques, mais qui s'apparentent aux chaises qu'il y a dans cette salle. La table qui était là précédemment, donc la table qui appartenait à la ville, est partie à l'ancienne école, voilà, à l'espace de formation, à l'ancienne école de la Libération. Donc ils ont hérité de la table précédente qui était dans un état un peu plus abîmé que celle-là. Voilà. Encore une fois, merci au Crédit Agricole pour le don de cette table. C'était la moindre des choses que de les remercier. Alors, nous avons 56 dossiers ce soir à voir, 23 en décision et 33 en délibération. Alors, concernant les décisions, comme d'habitude, vous m'arrêtez s'il y a des soucis. La première, la 2016-136, il s'agit de la résiliation du marché et exploitation des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments communaux. En fait, l'entreprise Cérel est défaillante, mais c'est toujours le même intervenant qui a créé une autre société, donc qui va intervenir sur Saint-Rémy. Donc concrètement, pas de changement. La décision d'après, la 2016-137, il s'agit d'une mission de coordination, sécurité et protection de la santé sur le chantier de renouvellement de la conduite de refoulement du quartier des Palus. 1 750 000 euros sur 3 ans, on le verra tout à l'heure au cours des délibérations. La troisième décision, la 2016-138, il s'agit d'une décision relative à une mission d'expertise opérationnelle et financière concernant la zone du sol. Le but donc de cette expertise, c'est de définir la stratégie opérationnelle, donc de la dissolution de la ZAC au départ à la vente des terrains à l'arrivée. Donc ils vont travailler sur le montage juridique, le bilan financier, prévisionnel évidemment, ainsi que le planning, lui aussi prévisionnel. Voilà, l'étude sera rendue courant février. Et on projette donc au conseil municipal de mars. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, il n'y aura pas de conseil. Donc conseil municipal de mars, de voter le budget annexe donc du lotissement USOL. Et le but étant qu'on ait un permis d'aménager au deuxième semestre 2017 et qu'on puisse vendre les terrains en 2018. Voilà. Ça avance. Vous savez que ça s'est débloqué en juin 2016, suite à l'anniversaire des 10 ans de l'achat de terrain. Donc maintenant, on peut mettre tout ça en branle, et ça, c'est la première décision qui concerne cette opération. Évidemment, au moins une commission aménagement tiendra informé les élus municipaux de la suite du dossier.
Monsieur le maire, une question. Par rapport à la ZAC du sol, donc vous allez créer un budget annexe en 2017 pour l'aménagement. Il y avait des suites à l'annulation que vous avez faite entre le premier et le second tour des élections municipales. Il y avait une pénalité pour le à rembourser pour la commune sur plusieurs années par rapport à Habitat 13. La première échéance, vous l'avez pris sur le budget de la ville. Est-ce que vous allez faire une rétrocession sur le budget annexe de l'indemnité, donc 2016 et 2017, puisque je pense qu'elle est payable au mois de janvier, si je ne me trompe pas.
C'est exactement ça. Ça sera pris à charge sur le budget annexe.
D'accord. Merci, monsieur le maire.
La décision d'après, la 2016-139, il s'agit d'un contrat de déploiement de la relève rapide des compteurs d'eau potable. Donc ça permet des relevés à distance, donc gain de temps, rationalisation des coûts, etc., etc. En plus, je pense que c'est un plus pour les usagers, puisque ça ne nécessite pas donc leur présence. Et point important, je vous donne la parole ensuite à Madame Pascal, point important, il n'y a pas d'émission d'ondes électromagnétiques, hormis pendant 3 secondes au moment du relevé. Voilà. Je tenais à le préciser. On a demandé les précisions techniques là-dessus.
Oui, Madame. On se demandait, vu le coût, quelles vont être les répercussions sur les factures individuelles. On ne sait pas.
Ramener au budget total de la régie de l'eau, on est à combien là? On est à, allez, en gros, à 10 000 euros hors taxe. Ramener au budget de la régie de l'eau, j'ai plus en tête le chiffre, mais c'est 1 million et quelques le budget de l'eau. Bon. Je ne pense pas que ça aura des incidences sur le budget. Si ça en a une, elle sera positive. Hein. On va vers la diminution des coûts, parce que ça permet une relève beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, un gain de temps pour le personnel.
Ça veut dire qu'il y aura moins de personnel pour relever les compteurs ?
Le même nombre de personnel. Simplement, aujourd'hui, un releveur fait à peu près 80 compteurs par jour.
Oui.
Donc, sa relève, elle dure pendant 3 mois.
D'accord.
Avec ce nouveau système, on va pouvoir relever à peu près 300 compteurs jour. Donc ce qui va faire avancer quand même plus rapidement la facturation, ce qui va être un bien aussi pour la régie de l'eau, d'avoir des factures plus rapides. Et en même temps, si le releveur tombe malade, n'importe quel agent peut se substituer pour aller faire cette relève, étant donné qu'elle est à distance avec le GPS. Donc n'importe qui peut être apte à faire quand même cette relève.
Donc, il n'y aura pas de répercussions.
Pour moi, il n'y aura pas de répercussions.
Très bien, merci.
Sachant que, je parle en tant que commune, au 1er janvier, ça parle au comité de communes de Vallée des Bourgs.
C'est vrai.
On a recruté à la régie de l'eau dernièrement, donc. Oui. La décision d'après, la 2016-140. Maintenant, c'est l'installation de climatisation et de ventilation dans les bâtiments communaux. Donc, ça concerne la crèche, le musée Estrine et l'école maternelle Marie-Moron. Voilà, vous avez la liste dans la convention du matériel. La décision d'après, bon, il s'agit d'une décision à 8 euros, je passe rapidement, hein, ce sont les remboursements des tickets de parking et de métro pour un intervenant. La suivante, la 142, règlement d'une contribution financière au lycée professionnel agricole des Alpilles, il s'agit de l'hébergement des renforts de gendarmerie et pompiers pour l'été 2016. Donc 9 100 euros au total, et il y a eu un peu plus de 1 000 nuitées. Donc vous voyez, ça fait pas cher du tout la nuitée, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci au lycée agricole. La suivante, la 143, tarif des séjours mis en place par la maison de la jeunesse. Donc c'est une reconduction. Alors on va être obligé de reprendre cette décision parce qu'on a oublié en fait les tarifs extérieurs. Donc vous la reverrez certainement le mois prochain.
Excusez-moi, monsieur le maire. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la proportion pour chaque catégorie, c'est-à-dire les familles concernées par un quotient familial inférieur à 699, puis de 700 à 1199, dans chaque catégorie, quelle est la proportion ?
Écoutez, je l'ai pas en tête, je me tourne vers Michel Bonnet non plus. On vous le fera passer, ça, j'avoue que j'ai pas la...
D'accord.
Monsieur Vallée, vous avez... Non.
Bon, ça pourrait être intéressant quand même.
On vous le fera passer ici que
merci.
Municipal, évidemment. À tout le conseil. Alors, la 2016-144, location, installation et maintenance de photocopieurs multifonctions. Donc, vous avez le montant du marché, 208 000 euros hors taxe pour 5 ans, donc 40 000 euros maximum par an. Donc, ce sont de nouveaux photocopieurs, donc connexion à distance, contrôle des utilisateurs du matériel. Donc là aussi, ça va générer des économies de fonctionnement. C'est le but. La suivante, la 145, représentation d'un spectacle de Noël pour la petite enfance. Donc en fait, c'est la répartition des coûts entre la crèche municipale, en gros les deux tiers, et la DMR, le dernier tiers. Donc là, il y a une petite erreur sur cette décision. Elle est modifiée par la décision 156 qu'on verra tout à l'heure. Décision d'après, achat de spectacles vivants pour la saison culturelle 2016-2017. Donc, quatre spectacles. Il y en a trois qui sont passés. Le premier, Mademoiselle Rêve, 326 spectateurs. Le deuxième, Arsène et Coquelicot, 363 spectateurs. Et le troisième, Éclat de danse, 282 spectateurs. Donc, vous voyez, on est à 320 ou 330 spectateurs en moyenne. Donc, ce sont des très, très beaux chiffres. Et ces spectacles, donc, ont recueilli un bon succès. C'est une très bonne chose. Quant au dernier, les Méduses, c'est prochainement. Samedi, je crois. Voilà. Ensuite, décision d'honoraire. Donc, il s'agit des incidents qui se sont déroulés pendant la feria 2015. Donc là, on paie les avocats. Et je tiens à dire que le jugement dans cette affaire a été exemplaire, puisque toutes les personnes concernées par cette affaire ont écopé d'amendes, plus pour certaines de peines de prison ferme allant jusqu'à un an. Donc je pense que c'est un jugement exemplaire et dissuasif. Voilà. Les faits, vous les connaissez. La décision d'après, la 2016-148, honoraire dû à la société d'avocats des maîtres Giguet-Faupin. Il s'agit de la défense de la ville dans l'affaire qui nous avait opposé au forain en juillet 2015. Voilà. Vous savez qu'en 2016, on a signé un protocole et que, bon, on peut se pouvoir dire que ça a bien fonctionné. On n'a pas eu de problème particulier cette année. Mais bon, on se doit quand même de payer les frais d'avocat de l'année précédente.
Excusez-moi, oui. Monsieur le maire. Ce que je ne comprends pas très bien, le litige était bien pour les fêtes du 14 juillet.
Oui.
Parce qu'on a une facture d'honoraires qui a été faite à Arles le lundi 6 juillet.
Ah, mais il s'installe avant. Pour les fêtes du 14 juillet, ils viennent quelques jours avant, les forêts.
Là, ça ferait au moins 10 jours avant. Hein. Ça nous a quand même posé question. Et quant à la facture elle-même, je me demande si c'est bien légal d'avoir quelque chose de rectifié à la main, puisqu'il y a eu une erreur donc de calcul de TVA, parce que 20% de 2100 euros, ça ne faisait pas 220, mais 420 euros. Ça a été rectifié à la main et écrit à la main aussi, réglé TTC. Donc cette facture, moi, elle me pose question entre la date, que je ne comprends pas, parce que le 6 juillet pour des litiges du 14 juillet.
Attends. Sur la date, sans refaire tout l'historique, mais il y a eu un arrêté de prix qui interdisait aux forains du 14 juillet de s'installer, enfin des forains du 14 juillet, vous m'avez compris, de s'installer sur la place de la République. Et cet arrêté, il a été attaqué. Donc il a bien fallu... L'arrêté, il est pris en amont. Donc il a bien fallu... avant les fêtes du 14 juillet, où ils sont venus et ils ont fait un passage en force, vous vous souvenez de l'histoire, mais il a bien fallu d'ores et déjà engager une procédure, puisque même l'avait engagé pour contester notre décision de ne pas autoriser la fête sur la place. Cette décision n'est pas consécutive à leur coup de force du 14 juillet, elle est consécutive à une procédure qu'ils avaient entamée avant pour contester le fait qu'on interdisait la fête. Vous comprenez ?
D'accord. Alors, Et le fait que la facture ait été rectifiée comme ça à la main, c'est pas surprenant pour une collectivité.
Monsieur Vallée.
Oui, non, mais je m'en fous.
Il y a exceptionnel, ça fait partie des choses qui sont autorisées. Là, en fait, on avait réglé la compte TTC et non pas sur un hors-taxe égal TTC.
C'était pas possible de le refaire carrément pour que ce soit quand même plus. Enfin, je sais pas.
La provision étant déjà passée à la trésorerie, on peut toujours faire
Ah non, mais maintenant, il n'y a plus aucun intérêt, c'est sûr. Mais à ce moment-là, moi, je suis surprise qu'on ait 420 euros rajoutés à la main, réglés, rajoutés à la main, TTC. Enfin, je trouve ça un peu léger.
Madame Aoun, je peux vous dire que s'il y avait eu le moindre souci, vu la, comment dire, vu la rigueur des agents de la trésorerie, je peux vous dire que ça aurait été rejeté. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui peuvent être témoignés autour de la table. C'est particulièrement rigoureux, ce qui est très bien, hein, puisqu'il s'agit d'argent public. Mais bon, la trésorerie, dès qu'il y a le moindre souci, il ne laisse pas passer. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc bon, je ne sais pas s'il n'y avait pas de problème particulier, sinon ils auraient rejeté.
Bon, très bien.
Alors, celle d'après, la 2016-149, convention de partenariat pour la mise en place d'un potager en permaculture avec l'association Retour vers le futur raisonné. Il s'agit du petit jardin à côté de la maison de la jeunesse. Voilà, c'est une convention sans incidence financière. La 150, convention pour la mise en place d'un projet éducatif territorial. Donc, il s'agit du contrat enfance jeunesse signé en 2015. Là, c'est la partie périscolaire, donc périscolaire et pause méridienne. Voilà. La 151, c'est un contrat de maintenance et d'assistance technique avec la société AIGA. Donc, c'est une modification d'une décision de 2010. C'est un logiciel pour la crèche. Donc, il s'agit de pointeuses, badgeuses, etc. Tout ce qui est imposé par la CAF dans le cadre de la convention qu'on a signée avec elle. Donc là, on n'avait pas vraiment le choix. La décision 152, il s'agit d'un contrat de télésurveillance de la station de pompage des Palus. Ce sont les alarmes de la station de pompage. Voilà.
Monsieur le maire, bonsoir.
Vous avez les coups. Oui. Bonsoir, oui.
Monsieur le maire, je m'étonne qu'on ait passé un contrat avec une société qui est en règlement judiciaire depuis le 4-11-2015.
Vous me l'apprenez. La régie de l'eau, monsieur le
maire. Je dis bien un redressement judiciaire, pas un dépôt de bilan. Hein. Donc on a parlé avec Gérard.
Oui, monsieur Bérézien.
Oui, donc cette société donc n'est pas en cession d'activité. Donc on peut toujours travailler avec des sociétés qui sont en redressement. On a déjà discuté avec monsieur Ponce dans le courant de la semaine et je lui ai déjà donné des explications au bureau.
Enfin, je ne pensais pas qu'il soit illégal de travailler avec une société qui a un redressement judiciaire. Oui, on peut voir les choses comme ça. Bon. Là aussi, je pense que s'il y avait eu le moindre souci, au niveau de la trésorerie, ça ne serait pas passé. Hein. Alors, la suivante, la 153, étude hydrogéologique préalable à l'implantation d'un forage d'eau potable sur le captage des Méjades. Donc, vous savez qu'on a besoin d'un deuxième point d'approvisionnement en eau à Saint-Rémy, pour sécuriser donc notre service eau communal. Donc après, bon, je fais rapide, hein. Après moult discussions avec le propriétaire, il n'a pas été possible de s'entendre. Donc on a été obligé de demander un arrêté préfectoral, nous autorisant une occupation temporaire sur le terrain. Je vous rappelle qu'il s'agit uniquement de faire un forage, un sondage, quoi, en fait. Ensuite, on verra si c'est positif, négatif, on verra ce que ça donne. Donc voilà, la préfecture nous a autorisé l'occupation temporaire. C'est un arrêté du 29 septembre 2016 et l'arrêté a une durée de 1 an. Voilà, et là, vous avez la prestation, donc 29 160 euros TTC pour l'étude hydrogéologique et le forage.
Les travaux démarreront en février 2017.
Parfait. Ensuite, la 154, renouvellement du bail des locaux de l'IUN, donc c'est la circonscription de Saint-Rémy de l'inspection de l'éducation nationale. Donc, suivant les indices classiques, on passe de 10 577 euros par an à 11 452 euros. Voilà.
Excusez-moi, oui. Par rapport aux autres années, on va dire que ce loyer donc de l'IEN est en augmentation, est en... comment on peut le juger?
Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On passe de 10 577 à 11 452. Oui, alors, c'est bloqué pendant une durée de 6 ans. Hein. On l'avait pas. C'est ça, M. Vallée? 3 ans. Non, ah oui. Le présent bail est consenti pour une durée de 6 ans. Oui, par contre, le montant, c'est 3 ans, c'est ça ?
Excusez-moi.
D'accord.
Non, mais je suis pas grave. D'accord. Oui, merci.
Alors, la décision qui suit, il s'agit de la réalisation d'un emprunt de 500 000 euros à taux fixe auprès de la Banque Postale. Donc, vous avez le taux sous les yeux, 1,05%. Donc, c'est le taux historiquement le plus bas qui est contracté notre collectivité. Donc, c'est vraiment très, très bas, proche d'1%. Et donc, c'est avec la Banque Postale, taux fixe sur 15 ans. Et je vous rappelle que cette année, on a emprunté une première fois 300 000 euros. Là, ça fera une deuxième fois 500 000. En tout, 800 000 euros. Et on aura remboursé 892 000. Donc, nous suivons notre ligne de désendettement de la commune. Voilà. Lors du premier mandat, 2005-2008, on avait désendetté d'à peu près 5% du stock. Entre 2008 et 2014, à nouveau 5% du stock. Et là, sur 2 ans, on est à 1,7% du stock. Donc, si vous multipliez par 3 sur le mandat, 6 ans, on arrivera, je pense, à la fin du mandat, à quelque chose aux environs de 5% aussi. Voilà. Donc, l'engagement sera tenu. La 556, il s'agit de l'erreur de date dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est la même décision. On a rectifié les dates. La 557, tarif des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse. Donc, soirée d'impro le 10 décembre et sortie patinoire, ça s'est pas fait, le 20 décembre. 8 euros et 5 euros. Alors, la dernière, la 558, équipement solaire photovoltaïque et aérothermique du gymnase COSEC. Donc, ce sont des avenants numéro 1, au lot 1 et 2. Donc, vous avez le coût sous les yeux, 33 000 euros hors taxe et 6 960 euros hors taxe. Voilà. Le but de ces avenants, c'est de renforcer la structure permettant de fixer les panneaux. Ça, évidemment, c'était indétectable dès le départ. Vous l'avez derrière. Je vous rappelle que c'est subventionné à 80% et que, nonobstant les avenants, nous sommes quand même à un coût inférieur aux prévisions du marché. Oui.
Oui. Je voudrais revenir sur la décision 2016-148 concernant les frais de l'avocat, les problèmes des forains. Les problèmes des forains ont eu lieu en juillet 2014. Et c'est pour ça que nous avons la délibération 2015-61 que vous avez au dos de la facture, date du 17 juin 2015. C'est pour des faits antérieurs.
Oui, oui. Et oui, mais parce qu'en fait, c'est M. le maire qui avait dit que c'était donc pour les problèmes qu'il y avait eu en 2015. Et donc, effectivement, rien ne correspondait. Là, je comprends mieux.
2014, et ça a été fait.
Ce qui veut dire que ce.
Et ça a été la décision 2015-61, c'est du 17 juin 2015.
Donc ce que disait voilà. M. Favergeon n'avait pas de rapport, en fait.
C'est-à-dire ?
Mais parce que M. Favergeon, il disait que c'était parce que l'arrêté avait été contesté bien avant. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que, tout simplement, ça remontait à l'année logique. Précédente.
Non, mais certainement, on n'a pas tout de tête. Ça doit être une facture ultérieure, ce dont il parlait.
Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une procédure qui a démarré effectivement en 2014 et qui la procédure ne s'est pas réglée en 2014.
Ah non, voilà.
D'accord. Voilà. Donc après, je dois avouer que les dates des factures présentées par les avocats, je les ai pas en tête. Humblement, je l'avoue.
Ok, on en a terminé avec les 10.
Oui. Si on peut revenir sur cet avenant.
Oui.
Vous nous dites qu'effectivement c'était indétectable le fait qu'il fallait rajouter pour les attaches des panneaux photovoltaïques. Mais je trouve que nous trouvons que l'augmentation de 39,06% est énorme. Comme avenant, et si vous permettez, allez-y. On se pose quand même quelques questions, à savoir que, en fait, un avenant ne peut jamais atteindre 40% parce que c'est illégal. Et comme par hasard, on est juste à la limite. On se pose quand même quelques questions. Donc, alors, je on voulait attirer votre attention
là-dessus. Je vais essayer de vous répondre au mieux. lorsque l'entreprise a commencé à démonter donc les bacs aciers, il n'y avait pas que simplement le renfort, il fallait faire un renfort sous les bacs aciers. Donc pour faire ce renfort-là, il a fallu lever les bacs aciers. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en les levant, on avait abîmé l'étanchéité et que de les remettre en place, on n'allait plus avoir l'étanchéité. Donc le bureau de contrôle nous a imposé, et c'est pas même pas nous pour me faire plaisir, le bureau de contrôle nous a imposé de changer tous les bacs aciers, dont la surface est quand même de 500 mètres carrés, je vous le rappelle, c'est pas que les renforts, c'est aussi tous les bacs aciers nouveaux qui vont être installés pour une surface de 500 mètres carrés, où on va incorporer dessus les panneaux solaires. Et qui seront pris à 80%, comme Monsieur le maire l'a dit, subventionnés à 80% par l'État. Après, concernant le taux, oui, ben, il est à 39%, mais je tenais quand même à vous dire, depuis le décret du 25 mars 2016, les réglementations ont changé au niveau des marchés publics, et on n'appellera plus maintenant des avenants, on appellera ça des marchés complémentaires, et on pourra aller jusqu'à 50% du montant du marché initial. Donc nous sommes en règle.
Parfait, merci.
Tout ça a été dit en commission d'appel d'offres. Hein,
tout à fait.
À laquelle vous êtes invité systématiquement.
Je voudrais juste ajouter qu'en plus de ça, on résout un petit problème d'étanchéité future du toit du COSEC. Voilà. C'est-à-dire qu'on finalement... voilà. Donc c'est quand même relativement positif et c'est financé à 80% par le dispositif TEPCV.
Merci pour ces précisions. On démarre donc les 33.
Mais non, mais monsieur le maire nous a dit que ce n'était pas prévisible tout ça, on est d'accord.
C'était vraiment
hein prévu. Voilà, c'est ça.
C'est quand même la première fois, et Stéphane pourra en parler, c'est quand même la première fois, et je crois que la commune de Cermi innove, il faudra aussi certainement en parler, de placer sur un COSEC des panneaux solaires sur toute sa surface, c'est-à-dire sur 420 mètres carrés, et après des panneaux solaires sur les murs, mais je laisserai la parole à... qui est plus technicien que moi là-dessus, c'est quand même une première. Il n'y a pas beaucoup de communes qui ont utilisé ces deux forces de captage pour pouvoir réduire leur consommation, sachant que quand même, au niveau électricité, on va consommer 75% de moins, et on va en réinjecter qui sera payé par Engie, puisque c'est plus RDF. Et après, au niveau du gaz, par rapport aux panneaux donc qui sont contre la façade, on va faire une économie d'à peu près 30% sur le gaz. 30% sur le gaz, sachant qu'actuellement, la facture annuelle du gaz, c'est à peu près 16 000 euros. Et la facture de l'électricité, c'est à peu près 6 000 euros, si je ne me trompe pas.
Merci. Alors... on démarre les 33 délibérations. La première, c'est Madame Bouquet.
Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de la modification du nombre de représentants auprès du CIVU du relais assistant maternel. Donc, je vous rappelle que la commune de Saint-Rémy ainsi que les communes de Château-Renard, Barbantane, Cabanes, Graveson, Nove et Rognonat sont membres d'un relais d'assistant maternel. Jusqu'à maintenant, deux membres titulaires et deux membres suppléants représentaient la ville au sein de son syndicat. Toutefois, comme la commune de Saint-Rémy, avec 10 977 habitants, après celle de Château-Renard, est une des plus importantes de ce groupement, et le nombre de ses représentants n'est pas plus important que celui des communes plus petites, il est donc proposé de solliciter la modification du statut du comité syndical et particulièrement son article 3, alinéa 1, régissant la composition du conseil syndical de la manière suivante. Le syndicat est administré par un conseil syndical composé de deux représentants titulaires pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et par un membre titulaire supplémentaire par tranche de 5 000 habitants. Donc à savoir de 10 000 à 15 000 habitants, un membre supplémentaire. Au-delà de 15 000 habitants, un membre supplémentaire. Donc de ce fait, Saint-Rémy pourrait ainsi bénéficier d'un membre supplémentaire ainsi que d'un membre suppléant. Donc je demande au conseil municipal de bien vouloir proposer au comité syndical du relais assistant maternel les modifications indiquées ci-dessus et de nommer un nouveau membre titulaire et suppléant. Il est proposé Madame Anne-Marie Gonfond-Brossard en tant que membre titulaire et Madame Claudia Montagu comme membre suppléant.
Et merci.
Moi, je vous pose juste une question. Est-ce que, justement, au sein du CIVU, l'opposition ne pourrait pas avoir un poste de titulaire, s'il vous plaît?
Vous avez... Et vous êtes suppléante?
Oui, je suis suppléante. Non, mais je demande un poste de titulaire. Parce que suppléante au CIVU, ça veut dire que si la titulaire est là, la suppléante ne siège pas. On est d'accord?
On est d'accord.
Voilà. Donc, je trouve ça assez dommage. Et donc, j'aurais préféré un poste de titulaire.
Madame Aoun, on en a déjà eu l'occasion de débattre de ça. Vous le savez, à partir de 4 postes, vous avez un poste. Là, il y en a 3. Que je vous dise, bon, il faudrait qu'on ait plus de 15 000 habitants.
Non, mais c'est pas, pas ça. Expliquez-moi alors quand même pourquoi on avait 10 977 habitants. Je croyais qu'on était sous le seuil des 10 000.
Parce que ce sont les chiffres de 2015.
De l'INSEE en 1975.
Non, 2015.
En 2015, je veux dire. Oui, mais... Et ça court jusqu'à quand, ça, alors? Parce que à partir du moment où on aura un membre supplémentaire...
Non, en fait, ça sera décidé une seule fois pour chaque mandat. C'est pas toutes les années qu'on change. Parce que sinon, c'est trop variant, justement.
Oui, mais alors pourquoi on n'a pas les chiffres de l'INSEE? Pourquoi on est parti sur la base de 10 977?
Parce qu'on a pris les chiffres DGF 2015.
En fait, c'était plus intéressant, c'est ça?
Non, c'est parce qu'on a pris les chiffres. Parce qu'on est en 2016, on a pris les chiffres de l'année dernière. On n'a pas encore les chiffres de 2016.
On n'a pas encore les chiffres de 2016.
Bon. Madame Aoun, si vous voulez tout savoir, c'est pas nous qui avons demandé cette modification.
En plus, oui, c'est la commune non, mais... de Château-Renard qui s'est basée sur ces chiffres-là pour.
Oui.
Voilà.
Donc, ah ben, raison de plus.
Bah. Non, mais bon, je sais bien ce que vous me dites, monsieur le maire, quand vous me dites on en a déjà parlé, bon, l'opposition demande, bon, oui, mais bon, Florine pourra dire quand même que dans les réunions, on est actif, on est présent, et ça paraîtrait quand même assez logique, en quelque part. Depuis 3 ans, je suis suppléante, je pouvais passer aussi titulaire. Voilà, je tenais à le dire. Après, bien sûr que vous pouvez décider de ce que vous voulez.
On décide en fonction de ce qu'on a défini au début du mandat. Voilà, vous le savez. Bien, sur les propositions de Florine Bouquet, qui est contre? Abstention? Adopté. Ensuite, monsieur Houlet.
Renouvellement de la conduite d'eau potable de refoulement. Donc, il s'agit ce soir de retenir l'entreprise. Ces travaux vont se faire donc sur 3 phases, vu le montant. Donc, une phase en 2017, une phase en 2018 et 2019. Comme vous le savez, on repart de la station de pompage et on remonte sur 3 km. Donc, on va faire à peu près 1 km par an. Donc, la société qui a été retenue, c'est la société CISTP à Villeneuve-les-Avignon pour un montant de 1 503 980,90 hors taxe.
Très bien. Pas d'intervention. Qui est contre cette proposition? Abstention? Unanimité? On poursuit.
Alors, il y a eu une erreur d'écriture, donc on reprend une délibération afin que l'entreprise puisse être payée. Il fallait voir 104 383,90 et non 104 393,90 pour les travaux de réhabilitation de l'ancienne école de la Libé. Dans le montant initial du marché, 104 383,90 hors taxe. Montant du marché initial après avenant 1, 108 214,90 hors taxe. Montant du marché avenant après 2, 111 993,90 hors taxe.
Merci. Pas d'intervention. Qui est contre? Abstention? Adopté. Les dossiers culture. Madame Loubry.
Oui, bonsoir. J'ai 6 délibérations. Donc la première est un petit peu longue, mais les autres sont plus brèves. Donc c'est une convention de partenariat avec le Parc naturel régional des Alpilles et le Musée des Alpilles. Le parc, tout comme le musée des Alpilles, anime de nombreux dispositifs pédagogiques à destination des enfants et du grand public. Et en outre, il s'est engagé dans une démarche d'interprétation du territoire des Alpilles. Le parc, la commune de Saint-Rémy et le musée ont ainsi vocation à être des partenaires privilégiés pour la réalisation d'actions de connaissance et de médiation en lien avec les thèmes de la culture et du patrimoine des Alpilles. Cette convention acte donc le partenariat entre la commune de Saint-Rémy à travers le musée des Alpilles et le parc naturel régional des Alpilles pour collaborer plus particulièrement sur un état des lieux des patrimoines et des sites culturels des Alpilles au potentiel d'interprétation et d'élaboration d'outils et jeux pédagogiques. En fait, la plus grosse tâche de la convention est de détacher un agent du musée des Alpilles, qui l'agent qui est Laurence Caritou, c'est la médiatrice culturelle, qui est détachée 50 heures justement pour travailler sur ce schéma d'interprétation auprès du parc naturel régional des Alpilles. 50 heures dans un premier temps d'ici la fin de l'année 2007, elle a déjà commencé. Et puis, il y aura 75 heures sur l'année 2017. Et vous avez une présentation donc rapide du budget. Sachez que Laurence Caritou est mise à disposition et que le parc paiera les heures de la médiatrice culturelle. Donc, je demande au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention donc de partenariat avec le parc pour pouvoir établir ce schéma. Merci.
Merci. C'est bon ? Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? On poursuit.
Donc la deuxième délibération, c'est la reconduction du contrat Passe-Maille Provence. C'est une convention qui est établie avec l'Office du tourisme des Bouches-du-Rhône, qui est tout un autre avantage. En fait, le Maille Passe Provence est attribué à une personne, et si elle se présente au musée avec un adulte, elle aura la gratuité si l'adulte paie un tarif entier. Cela nous permet d'avoir une communication beaucoup plus aisée avec l'office départemental, et ils sont venus également effectuer un documentaire sur la ville de Saint-Rémy. Donc on a tout avantage à reconduire ce contrat Passe-Maille Provence. Excusez-moi, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de renouvellement. Pardon.
Merci. Alors, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Ensuite ?
Donc, à nouveau un renouvellement, mais ce coup-ci, c'est pour le billet jumelé. Musée des Alpilles, Hôtel de Sade. En 2015, nous avions établi le billet jumelé que l'on pouvait se procurer uniquement au Musée des Alpilles. Il était valable 2 jours, Musée des Alpilles, Hôtel de Sade. L'année suivante, que ça marche bien, grand succès, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est quand même une belle idée, ce billet jumelé. Donc, on pouvait également se le procurer à l'hôtel de Sade, donc hôtel des Sades, musée des Alpilles. Et donc, cette année, pour la troisième année, donc, je vous demande de bien vouloir autoriser, monsieur le maire, à signer le renouvellement aussi du billet jumelé en vente et au musée des Alpilles et à l'hôtel de Sade.
Une question, est-ce qu'on sait le nombre de billets jumelés qui sont vendus par an ?
C'est peu. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je dirais une quarantaine. C'est peu. C'est vraiment peu. Mais je pense qu'il faut quand même maintenir. Je pense que c'est peu parce que après vous avez une délibération. Vous avez sans doute entendu parler du Saint-Rémy Pass. Et c'est tout à fait normal qu'il marche très bien et donc il est supérieur à la vente du billet jumelé.
Le Saint-Rémy Pass, c'est 405, ça j'en suis sûr.
Oui, je les ai, le chiffre.
Le billet jumelé. Oui.
Le jumelé, c'est très peu. Mais bon, il existe et il est bien de le maintenir.
Bien, sur ce renouvellement de convention. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Après, donc.
Voilà, donc c'est le renouvellement de la convention donc entre le musée des Alpilles, le centre des monuments nationaux, l'association Présence Van Gogh, donc le musée Estrine, l'association Saint-Paul de Mouzol et l'office du tourisme de Saint-Rémy, donc pour la prorogation du Saint-Rémy Pass. Je rappelle à l'Assemblée que le Saint-Rémy Pass a été lancé lors de la saison 2016. Il vise donc à proposer un billet à tarif unique pour visiter l'ensemble des sites que j'ai cités plus haut. Et à l'instar de ce qui est pratiqué dans de nombreuses villes, l'objectif du Saint-Rémy Pass est de proposer une solution simple aux visiteurs, mais aussi de renforcer la visibilité et la notoriété de chacun des sites et d'accroître ainsi leur fréquentation. Et c'est vraiment tout à fait le cas. Donc la validité du Saint-Rémy Pass court de la date de délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Vu l'avis conforme du comptable public, je demande au conseil municipal d'accepter le principe de la prorogation du Saint-Rémy Pass pour 2017 et d'autoriser le maire à signer la convention et toutes pièces utiles à l'exécution des présentes. D'accepter l'accès au musée des Alpilles pour les porteurs du Saint-Rémy Pass. Et là, effectivement, nous avons les chiffres et ils sont vraiment excellents. L'Office du tourisme a délivré 405 passes vendues et ils ont été utilisés puisque Saint-Paul en a fait retourner 366, le musée des Alpilles 317 et pour le CMN 156.
Parfait, merci. Sur cette prorogation, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Ensuite ?
Donc là, une demande de subvention à la DRAC pour la réalisation des ateliers d'art graphique dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Je rappelle que le musée des Alpilles organise des ateliers d'art graphique et des actions de médiation en direction de tous les publics, et plus particulièrement le jeune public scolaire, périscolaire et extrascolaire. Ces rencontres et ateliers sont animés par la médiatrice du musée ou par des artistes professionnels. Ils sont construits en lien avec les collections du musée et participent au développement de l'éducation artistique et culturelle en favorisant le rapport direct aux œuvres et la rencontre avec des artistes et ainsi que la pratique artistique. Le coût est estimé à 16 460 euros. Je demande au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter une subvention la plus haute possible auprès de la direction régionale des affaires culturelles dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle pour la réalisation des ateliers d'art graphique. Je rappelle que l'année dernière, cette demande a été très très bien honorée. La DRAC a versé 6 000 euros au musée des Alpilles, ce qui montre tout l'intérêt des ateliers qui sont organisés au sein du musée.
Merci. Sur cette demande de subvention,
j'aurais voulu savoir combien d'enfants par atelier.
Je les ai ce coup-ci. L'année dernière, vous l'aviez demandé, puis je l'ai fait rajouter sur le compte-rendu. Et cette année, je les ai. Donc, il y a différents ateliers, il y a différents âges.
Oui.
Donc, sur les 7-10 ans, il y a 6 enfants. Sur les 11-16 ans, il y a 5 enfants. Sur les ateliers, hein, donc. Sur les vacances au musée, 7-10 ans à nouveau, là nous en avons 12. Sur les plus petits, vacances au musée toujours, 4-6 ans, nous en avons 6. Et sur les vacances au musée, 11-16 ans, là c'est un petit peu plus difficile, nous en avons 3. Et par contre, bon, pour les ateliers scolaires, nous avons 18 classes.
Et on a une,
Pardon ?
Il suffit de diviser le chiffre par le nombre d'enfants pour savoir ce que chacun payait. Le coût de chaque enfant paye à peu près combien ? Est-ce qu'on divise 2160 par 6 enfants ? Comment ? 60 euros par enfant ? Et les ateliers pour adultes, il y a combien de... Les stages adultes ?
Les ateliers pour adultes, on a 12 participants.
Merci, Madame Le Bon.
Mais je vous en prie.
Bien, sur cette demande de subvention, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Et enfin, dernier dossier culture,
C'est la demande de financement donc du parc naturel régional des Alpilles pour la réalisation de projets classe patrimoine et environnement, le paysage des Alpilles au fil de l'eau. C'est un renouvellement de demande de financement auprès du parc puisque ces projets se déroulent depuis 2010 et cette année ils concerneront deux classes de l'école Saint-Martin. Ce concerne les classes élémentaires, les collèges, les lycées de toutes les villes du parc naturel régional des Alpilles. Et donc cette année, le paysage des Alpilles au fil du temps concernera deux classes de l'école Saint-Martin. Je demande au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire donc à solliciter le financement de 1938 euros par le parc naturel régional des Alpilles pour les interventions dont je viens de vous parler. Merci.
Merci. Sur ces demandes de financement, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Les dossiers finances, donc on commence par le budget principal. Délibération classique, admission en non-valeur et créance éteinte. Alors, concernant les admissions en non-valeur, 2861,83 €. Donc je vous rappelle que là, il y a encore une petite chance de recouvrer, mais bon... En général, c'est entre 0,5 et 1% des sommes qu'on recouvre. Donc, vous voyez, la chaîne, c'est vraiment minime. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quant aux créances éteintes, là, par contre, il y a zéro chance de recouvrer. Donc, perte sèche pour la commune. 3038,33 €. Là, c'est suite à souvent des décisions de justice. Voilà. Donc, ça concerne essentiellement les cantines et les crèches, comme vous pouvez l'imaginer. Pas d'intervention. Qui est contre l'adoption de ces admissions à non-valeur et ces créances éteintes ? Pas de contre. Abstention ? Adopté. Alors, on propose maintenant de renouveler la ligne de trésorerie. Donc, on propose de la renouveler à la même hauteur, 1 million d'euros. Donc, même hauteur qu'en 2016. Et on travaillerait, si vous en êtes d'accord, avec la Société Générale, au taux de 0,6%. Là aussi, c'est historiquement très, très faible. L'année dernière, on était à 0,7. Cette année, on est à 0,6. Donc, on est vraiment sur des taux très, 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 très bas. Voilà, donc, pour cette proposition de renouvellement de la ligne de trésorerie. Monsieur Milan.
Simplement pour vous dire qu'on en reparlera à la fin du Conseil, je pense, puisqu'on l'a mis en question diverse.
Pas de problème. Alors, sur ce renouvellement de ligne de trésorerie, qui est contre ? Abstention ? Adopté. Alors, sur l'engagement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2017, je vous rappelle que le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, permet d'engager jusqu'à concurrence d'un quart des investissements de l'année précédente. Alors, d'engager, évidemment, entre le 1er janvier et le moment du vote du budget, donc 31 mars au plus tard, sauf les années électorales. Donc, ce qui vous est proposé, eh bien, c'est un quart des crédits votés en 2016. Donc, vous avez les crédits 2016 sur la colonne de gauche et la division par 4 pour ouverture de crédits 2017. Évidemment, on a compté très très large, on n'engagera pas tout d'ici la fin mars, hein, ça c'est sûr. Mais bon, pour être tranquille sur l'ensemble des lignes, on vous propose la délibération au maximum, sachant encore une fois qu'évidemment, on ne réalisera pas tout ça. Délibération classique, pas d'intervention. Qui est contre cette proposition ? 8 contre. Abstention ? Comment ? Et vous comprenez, Madame Aoun, vous comprenez pourquoi il est difficile de vous faire participer à l'exécutif. Vous êtes contre toutes les dépenses, vous êtes contre le budget.
Ça n'a rien à voir.
Et dehors, c'est pas possible.
Mais ça n'a rien à voir, là. Ça n'a pas de rapport, excusez-moi.
Ça n'a pas de rapport ?
Non. Moi, avec ce que je vous demandais, non. Avec ce que je vous demandais, ça n'avait aucun rapport.
Ben, écoutez, regardez comment fonctionnent les collectivités territoriales, hein, où on vote le budget et on participe à la gestion de la collectivité, où on vote contre le budget, on se situe dans l'opposition, et auquel cas il est difficile de prétendre à la gestion de la collectivité. Ça me paraît tellement logique, de bon sens et limpide, et c'est ce qui se passe dans toutes les collectivités de France. Hein. C'est pas spécifique à Saint-Rémy. Hein.
Mais alors ne nous proposez pas de faire partie des commissions. Ça sert à quoi alors ?
Alors, les commissions, elles sont à la proportionnelle, trois quarts, un quart. Donc,
oui, ça, d'accord, c'est la règle. Mais oui, mais bien sûr, mais on sait très bien que ça n'apportera rien, puisque comme vous dites si bien, on est dans l'opposition.
Mais c'est vous qui vous y situez. Regardez, ligne de trésorerie, votez contre. Engagement du quart des dépenses de l'année dernière, vous votez contre. Bon, très bien, pas de problème. Moi, je respecte tout à fait votre position. Mais on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. C'est pas
alors,
possible.
Toujours, vous me parlez donc de nous. Je vais quand même aussi vous parler de vous. Quand vous étiez dans l'opposition, comme vous me dites si souvent, vous votiez le budget ou vous étiez contre?
J'ai régulièrement voté contre le budget, mais d'accord, j'ai jamais demandé merci. De participer à l'exécutif. Voilà, j'étais logique.
Une question vous poser sur cette délibération. Vous parlez de fouilles archéologiques à Ussol. C'est quoi?
Ce sont les éventuelles fouilles qui pourraient, qu'on pourrait nous imposer via, vous savez comment ça fonctionne, hein, l'INRAP, etc., hein, les fouilles préventives. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il y en aura ou s'il n'y en aura pas. Ça dépendra de ce que nous, de ce que nous imposera la DRAC via derrière l'INRAP, puisque c'est eux qui réalisent en général.
Avec la somme énorme qui a été dépensée pour faire les premières fouilles, vous pensez qu'il y en aura de secondes? Que c'est possible? Ça me paraît complètement hallucinant hein, comme réponse.
Non, encore une fois, ce sont des prévisions budgétaires. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser. Hein.
Alors pourquoi vous les mettez?
En plus, vous avez vu la somme qu'il y a. Il y a 12 679,43 €. Je pense que M. Vallée, en fait, il a repris les sommes de l'année dernière. Il a divisé par 4. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va réaliser la ligne. Hein. Avec 12 000 €, on ne fera pas grand-chose comme fouille archéologique. Hein. Les premières, ce n'est pas ça qu'elles ont coûté. Hein. C'est beaucoup plus. Hein.
Oh oui.
Simplement d'une inscription de précaution par rapport au projet d'aménagement du sol et au futur budget annexe, au cas où il y aurait un éventuel complément de plus de documentation ou d'études à fournir. Voilà, on est sur de la précaution prudente.
D'accord, merci.
Précaution. Non, mais simplement donc les ouvertures de crédit donc qui ne figurent pas, ça veut donc dire que vous ne faites pas les travaux en question ou bien c'est qu'ils sont déjà payés, c'est quoi? Lorsque vous êtes par exemple au poteau incendie, crédit voté 74 420, ouverture de crédit 0.
C'est qu'on n'a pas prévu de réaliser des travaux avant le vote du budget sur ces lignes-là.
Comment? Oui.
Là,
ça pourra attendre le budget suivant. D'accord.
Vous remarquez qu'à part effectivement, éventuellement, pour tous les samedis, tout le reste, ce sont des programmes terminés. Hein. Réhabilitation des charges, c'est terminé. Estrine, c'est terminé. Et travaux avenue Van Gogh, c'est terminé. Donc c'était des queues de crédit qui restaient, mais qu'on n'a pas besoin de réinscrire, puisqu'on a achevé. On avait délibéré. Oui. Alors. Délibération suivante, avance sur subvention aux associations. Comité des fêtes, donc, qui vous est proposé une avance de 18 000 €, ASSR, une avance de 15 000 €, Amicale des employés communaux, une avance de 13 000 €, Centre de loisirs, 3 x 10 000 € janvier, février, mars, Ciné-Palace, 8 000 € en janvier, 8 000 € en mars, et CCAS, 150 000 € en janvier, 80 000 en février, 60 000 en mars. Et enfin, les coopératives scolaires, École de la République, 3 500 €, École de l'Argelier, 3 500 €. Voilà donc les avances sur subventions classiques qui vous sont proposées. Les seules qui ont disparu, et vous comprenez bien pourquoi, hein, ce sont les avances à l'Office de tourisme, puisqu'aujourd'hui, la compétence tourisme est transférée de par la loi à la communauté de communes.
Les 15 000 € pour le club de la Sessereux, c'est pour payer en partie l'avocat concernant sa plainte contre l'ancien dirigeant?
Écoutez, nous, on verse une avance de subvention, ce qu'ils nous ont demandé. Ensuite, c'est eux qui gèrent leur club. Hein. Bon, on a toujours voté une avance de subvention à la SSR, on la renouvelle. Ils nous ont fait savoir qu'ils nous adresseraient avant la fin de l'année un bilan d'activité de l'association. Bon, ben voilà, hein, dès qu'on a le bilan, on vous le présentera lors de la prochaine commission bilocale. Mais après, bon, c'est eux qui gèrent leur association. Hein. Bien, sur ces avances de subvention, il n'y a pas d'élus qui doivent sortir, là ? Non ? Alors, on peut les passer aux voix. Oui, M. Giovannetti n'est pas présent. Donc, qui est contre ces propositions ? Abstention ? Unanimité ? Eh bien, on considérera que la personne n'a pas voté pour lui. Si c'est ça la règle. C'est ça la règle ? Non ? Je ne sais pas. On vérifie. On vérifie en cas de procuration comment ça se passe. Bien. En tout cas, on sera attentif. On ne va pas le mettre dans l'embarras. Alors, délibération d'après, il s'agit de la décision modificative numéro 2. Donc, je vous rappelle que la première, la DME, portait sur 70 000 euros, donc 0,5% du budget. Celle-là, elle porte sur 7 000 euros, donc 0,05% du budget. Il s'agit en fait d'une régularisation d'écriture comptable à la demande de Mme Touvoret sur un chapitre non pourvu au budget primitif. Il s'agit d'un prélèvement sur la fiscalité par rapport à un dégrèvement accordé par l'État. Donc voilà, c'était un petit peu difficile à prévoir cette affaire. Et donc on compense son équilibre en recettes par une recette supplémentaire de la taxe de séjour. Donc le tout, c'est 7 333 euros, voilà, rapporté à un budget d'une section de fonctionnement d'environ 16 millions d'euros. Vous voyez l'epsilonien de la somme. Oui, M. Guay.
Non, on ne votera pas, malgré que ce soit un budget epsilonien, comme vous dites. Comme on n'a pas voté le budget primitif 2016 et comme on est à l'opposition, on ne le votera pas.
C'est cohérent. Je vous reconnais une cohérence là-dessus. Bien, sur cette décision modificative numéro 2, qui est contre ? 8 contre. Abstention ? Adopté. Alors, délibération suivante. Il vous est proposé une avance de trésorerie au SICAS, syndicat intercommunal du canal des Alpilles septentrionales. Syndicat présidé et animé de main de maître par ma voisine Gisèle Ravez. Donc je tiens à saluer le travail au sein de ce syndicat, parce que je ne sais pas si pouvoir dire que si elle n'avait pas été là, alors c'est pas la seule évidemment, hein, le travail de M. Morales qui est le directeur, et puis d'autres, bureaux, etc. Mais enfin bon, c'est quand même elle qui préside. Je pense que si elle n'avait pas été là, il y aurait déjà plus d'eau au canal et plus d'eau au martyr. Donc je tiens vraiment à souligner la qualité de son travail et toute sa pugnacité. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole parce qu'elle connaît le dossier évidemment sur le bout des doigts. En fait, il s'agit d'une demande d'avance de trésorerie à hauteur de 34 008 euros. Pourquoi ce chiffre un peu bizarre de 34 008? Parce qu'il s'agit d'une clé de répartition entre l'ensemble des communes sur des calculs qui datent de la création du syndicat, quoi. Mais Gisèle, je t'en prie, tu vas nous résumer ça parfaitement.
Moi, j'ai essayé d'être concise parce que l'affaire est assez complexe. Donc, le canal des Alpines fait 120 km, il a deux branches. Il y a 950 hectares qui sont irrigués grâce à l'eau du canal, 950 hectares déclarés, qui sont irrigués sur Saint-Rémy, sur les 6500 hectares, donc 4500 payants. Bon, je vais pas tout détailler ce soir. Si on en est à prendre cette délibération, c'est parce qu'en fait, le SICAS, c'est une concession, c'est l'État le propriétaire. Et ce canal a été exploité pendant des années par des compagnies privées. La dernière en date était la CFI, la compagnie française d'irrigation, qui a fait faillite dans les années 80. Et dans les années 80, en fait, le monde paysan s'est trouvé face à un gros dilemme. Enfin, le monde paysan et les communes, enfin tout le monde, c'est comment on allait faire là pour continuer à faire survivre, à faire vivre ce canal. Et à l'époque, alors moi j'étais encore jeune, hein, j'avais Dany Aoun comme maîtresse à l'époque, je ne m'en souviens pas très bien, mais bon, ce qu'on m'a raconté, c'est que ça a été quand même une grosse affaire. Et finalement, ce sont les communes qui se sont réunies au sein d'un syndicat intercommunal, alors que c'est pas une compétence communale, l'irrigation, hein, je le précise. C'est les communes qui se sont groupées, les 20 communes traversées par le canal, sauf deux, Saint-Andiol et Molégès, qui sont pas traversées. Je sais pas pourquoi, enfin bon, il y a eu d'autres histoires, et qui ont donc créé ce syndicat intercommunal. communal pour continuer donc à faire vivre ce canal. Donc c'est une PCI, mais sachant que c'est un SPIC, c'est un service public industriel et commercial, puisqu'en fait il se rémunère sur les recettes acquises via la fourniture d'eau, donc via un rôle que paient les usagers et également des redevances d'occupation de domaine public. Ce sont les deux principales recettes, plus d'autres recettes annexes. Or, il se trouve que cette concession, lorsqu'elle a été reprise donc par les communes, les textes n'ont pas changé. Or, le canal a été mis en service en 1854, la branche numéro 1, et c'est toujours des textes qui datent de cette époque qui régissent le canal. Voilà. Donc, je vois. Donc, vous imaginez les gros problèmes juridiques qu'on a avec une succession de lois, loi 1902, loi 1922, qui instaure une surtaxe. C'était après la guerre, donc il y a des surtaxes qui ont été instaurées, y compris pour l'eau fournie par le canal. La loi 1902 délimite en fait un volume d'eau maximal à fournir par hectare. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vais venir au contentieux qui nous amène à voter cette annonce de trésorerie. C'est qu'en fait, le dernier décret qui régit les affaires du SICAS date de 1947. Et en fait, ce décret établit la mise à jour de la formule de calcul du rôle qui était basée sur la tonne de ciment à Saint-Rémy, des entrepôts de Saint-Rémy, la tonne d'acier. Donc c'est pour vous dire que c'était des formules très anciennes, obsolètes, que le SICAS a demandé plusieurs fois à l'État de revoir. L'État a fait la sourde oreille jusqu'à ce qu'il y ait un des principaux abonnataires du SICAS, à savoir l'association syndicale des propriétaires de Saint-Andiol, qui a attaqué le SICAS. Ça a commencé en 2008 en disant que voilà, il payait trop cher, voulait plus payer. Enfin, je vais pas étaler tout le contentieux ici. Donc ils ont attaqué. Ils avaient déjà attaqué en 1930. Hein, ça date d'un moment. Hein. Donc ils ont attaqué plusieurs fois. Donc au début, ils attaquaient en disant qu'ils n'avaient pas payé la surtaxe. Ils ont été déboutés. Le tribunal a bien déclaré qu'ils avaient payé la surtaxe. Ils ont, bon, je passe tous les contentieux qu'on a eu. Et les derniers contentieux qu'on a eu, ils ont attaqué sur deux fronts, le fait qu'ils n'avaient pas payé la surtaxe et le fait que la formule de calcul est obsolète. Et donc là, effectivement, ils ont eu gain de cause sur le deuxième point, puisqu'effectivement, elle était obsolète. L'État même l'a dit, le rapport de la Cour des comptes l'a dit, le rapport des ingénieurs généraux qui a été fait en 2013 l'a dit, mais l'État n'a jamais mis à jour cette formule. Résultat, un jugement a été rendu en novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Tarascon, puisque c'est pas le tribunal administratif, on est dans le droit privé, en annulant la formule, enfin en annulant les titres, 4 années de titres qui étaient contestés, c'est-à-dire 460 000 euros, 458 000 euros hors taxe. Vous imaginez sur la trésorerie du SICAS, qui était, enfin, déjà le SICAS, c'était assez compliqué. Donc, on a en gros un budget de fonctionnement de 2,4 millions, ça vous donne à peu près la mesure de l'annulation des titres. Donc, face à cette annulation des titres, ben, en fait, on a été bien embêtés. Donc, on a essayé de renégocier avec Saint-Andiol des arrangements, c'était impossible. C'est impossible. Donc on a demandé, bien sûr, on s'est tourné vers l'État, puisqu'en fait c'est l'État le responsable, on est concession d'État, c'est l'État qui n'a pas joué son rôle de mise à jour des rôles. Donc l'État, dans l'urgence, est arrivé à produire un nouveau décret quand même, qui nous a permis de continuer à établir les rôles à partir de 2016, puisqu'en fait non seulement il y avait une annulation des 4 années de titre voisin à Saint-Andiol, mais si on n'avait pas un nouveau décret avec une nouvelle formule de calcul, on ne pouvait plus émettre de rôle du tout. À partir de 2016, c'était toute la tarification du SICAS qui était remise en cause. Donc l'État nous a mis à disposition un nouveau décret avec une nouvelle tarification qui est ce qu'elle est. Mais n'empêche que ça ne résout pas le problème des 4 années annulées. Donc on a demandé plusieurs fois donc au ministère de l'Agriculture, puisqu'en fait on dépend du ministère de l'Agriculture, hein, de trouver une solution, de demander une situation d'équilibre, puisqu'en tant que concessionnaire, il doit l'équilibre financier à l'organisme qui régit la concession, à savoir le syndicat intercommunal. Pour l'instant, on n'a jamais eu gain de cause, donc on est en contentieux avec l'État maintenant. Donc les communes ont accepté de faire une avance de trésorerie, sachant qu'en fait il y a des grosses négociations qui ont été menées avec l'ASA Saint-Andiol pour signer un protocole pour que l'ASA Saint-Andiol verse quand même une partie des sommes qu'on lui réclamait, parce qu'on était encore en contentieux. J'essaie de résumer, mais c'est compliqué. Parce que les 4 années qui ont été annulées, nous on a fait une déviation rétroactive pour qu'elle nous paye ces 4 années, ce qu'elle a contesté. Enfin bon, je vous laisse imaginer où on en est. Enfin c'est très très compliqué. Donc là on est sur le point de signer un protocole avec l'ASA Saint-Andiol qui nous verserait 250 000 euros, donc 220 000 euros pour solde de tout compte sur les 4 années arriérées qui sont réclamées, et 30 000 euros sur les années à venir, puisqu'ils attaquent également 2016, hein, malgré le nouveau décret. Hein, donc c'est pour dire, on est encore en procès. Et le commune abonderait à hauteur de la moitié des sommes dues, c'est-à-dire 240 000 euros, pour une avance de trésorerie, puisqu'on a bon espoir quand même, on va continuer à se battre, de récupérer cette somme auprès de services de l'État, enfin auprès de l'État, puisqu'en fait, je me répète, hein, on exploite un service pour le compte de l'État, qui n'a pas mis à jour ses formules de calcul, et qui nous a laissé là... nous enfoncer, on va dire, dans les contentieux sans... voilà. Enfin, en réagissant, en mettant à disposition un nouveau décret, mais en tout cas, en ne solutionnant pas l'arriéré, 400 000 euros, c'est pas rien quand même sur un budget d'un million quatre, hein. Donc, de fonctionnement, je vous laisse entrevoir ça. Dans les communes, alors, sur les 20 communes, il y en a, trois qui ont voté contre cette avance de trésorerie. C'est bien dommage. Donc, une qui a énormément d'hectares arrosés par le CICAS et deux qui sont abstenus, mais les 15 autres ont voté pour, y compris Arles, qui a qu'un arrosant, je tiens à le signaler. Et Arles, si vous voyez ce qu'ils doivent verser, ils doivent verser autant que Saint-Rémy, parce que la quote-part, elle est calculée, elle a été calculée dans les années 90, en fonction du pouvoir fiscal, du nombre d'habitants et des surfaces arrosées. Donc des fois, ça donne des chiffres un peu surprenants pour certaines communes, mais bon, voilà, Malemort a accepté alors qu'ils n'ont pas d'arrosant, voilà, donc je les remercie, hein, j'en profite pour les remercier. L'idée là, c'est d'arriver à reprendre notre souffle, le CICAS, sachant que la bataille n'est pas encore finie, puisqu'en fait, on a ce contentieux, on a obligé d'aller au contentieux avec l'État, puisque pour l'instant, le ministère de l'Agriculture fait la sourde oreille pour quand même obtenir gain de cause, et toujours avec un contentieux qui continue à courir sur les prochaines années avec la ZAD Saint-Andiol. Si on n'arrive pas à résoudre ce contentieux à l'amiable, c'est parce qu'en fait, on est un carcan de lois et de décrets auxquels on ne peut pas déroger. C'est-à-dire que si on fait une faveur à Saint-Andiol pour dire oh, ben, vous payez moins, je ne sais pas sur quels critères d'ailleurs, ben, je veux dire, c'est toute la tarification qui est obsolète. On ne peut pas déroger aux règles qui sont établies selon des lois et des décrets. Le CICAS est vraiment géré par des lois et des décrets. C'est ce qui complique énormément les choses. Donc oui, il y a encore de l'eau. J'espère qu'il y a encore de l'eau pour longtemps. Quoi. Voilà.
Oui, on a bien entendu votre exposé. Vous nous demandez de voter une avance de trésorerie de 34 008 €. Ben nous aimerions avoir les comptes pour au moins valider cette somme. Est-ce que c'est possible? Les comptes du CICAS.
Ben, si vous voulez, hein, pour les faire passer. Hein.
Comment?
Vous pouvez faire passer le budget, le compte administratif. Il n'y a pas de souci. Sachant que alors le budget a été voté en déséquilibre en 2008. Parce qu'il y a eu quand on a repris un nouveau bureau et un nouveau directeur, et qu'on a des résultats, enfin je veux dire, tout ça n'empêche pas, c'est des problèmes de trésorerie, parce que les résultats sont excédentaires au CICAS depuis maintenant 2012, de mémoire. 2011,
ouais, je suis au courant.
Voilà.
Oui, mais c'est, on se contentera des comptes de l'année dernière, on ne va pas faire de l'archéologie. Merci.
Je précise que l'annulation des titres, on a pu l'absorber dans le budget parce qu'on avait provisionné. Enfin voilà, c'est vraiment des problèmes de trésorerie, vous le verrez dans les calculs. C'est vraiment des gros problèmes de trésorerie qui sont, vous voyez.
Monsieur le maire, un peu d'humour. Effectivement, je reconnais que Gisèle est particulièrement brillante, mais j'aurais envie de dire que, voyez, déjà à l'époque, je travaillais pour la collectivité, parce que dans votre équipe, j'ai deux élèves, et je trouve que finalement, ils sont pas si mal que ça à l'école Saint-Martin.
C'est pour ça qu'ils sont autour de la table, effectivement.
Très longtemps que je travaille pour vous.
Et en plus, on va voter pour. Alors, vous voyez qu'on coopère.
Très bien. Alors, sur cette convention qui, est donc, qui permet de contacter une avance de trésorerie pour le CICAS, 34 008 €, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Merci.
Juste une question en plus par rapport au contentieux qui se développe sur 2016. Quel est le risque pour le CICAS au niveau trésorerie? Parce que ça va être un coût de 50 000 euros encore.
Ouais, ben en fait, là, il faut absolument qu'on arrive à obtenir une trésorerie des banques pour faire face aux dépenses courantes. Donc, sur l'année 2016, ça va être très tendu, mais on devrait arriver. Mais si ça traîne encore trop longtemps, en fait, c'est que la Saint-Denis nous asphyxie financièrement. Hein, parce qu'en fait, c'est pour ça, en fait, hein, qu'on est dans une telle situation. Parce que dès qu'ils attaquent, c'est suspensif. Donc, on ne peut plus encaisser les titres. Il faut savoir qu'ils avaient déjà attaqué en 2008-2009 et que le sous-préfet a fait des débits d'office. Qu'après, bon, il y a eu des problèmes de. Ils n'ont pas attaqué au bon tribunal, donc voilà, on a eu le temps. Mais qu'après, on s'embourbe dans les délais, quoi. Ça met 3 à 4 ans à être jugé. C'est pour ça qu'on ne tient pas, en fait. Parce que jusqu'à présent, tous les jugements étaient en faveur du CICAS. Ils ont été toujours condamnés à payer. Là où ils ont gagné, et bon, malheureusement, on le voyait venir, hein, on le savait que la forme était obsolète. Mais n'importe qui aurait pu attaquer, n'importe quel agriculteur de Saint-Rémy aurait pu attaquer, comme l'ASA Saint-Andiol, sur la base que la forme était obsolète. Voilà. Le CICAS est tellement sur des bases juridiques très fragiles, et c'est vrai que c'est. Il y a des jours où il y a de quoi se décourager. C'est que voilà, après, si quelqu'un veut faire crouler le CICAS, il pourra y arriver, hein, ça c'est certain.
Un recours, après, ça peut faire un château de cartes pour les autres communes. Hein.
Oui, alors oui, les autres communes aussi, mais là, pour le coup, là, ils attaquent le décret, parce que je ne vous ai pas tout détaillé, mais ils attaquent, nous, le SICAM, ils attaquent l'État, ils l'ont déjà attaqué plusieurs fois, ils ont attaqué à la, au Conseil d'État, la loi, le décret, tout. Je ne vous dis pas les sommes qu'ils dépensent en frais d'avocat. Donc là, ils attaquent le décret qui a été pris en avril 2016. À l'époque, c'était encore M. Cassoli qui était sous-préfet, et bon, je le remercie, il est parti, mais voilà, ils attaquent ce décret-là, qui pourtant, là, pour le coup, il n'y a même pas de formule, il y a 6 tarifs qui sont établis, alors qu'on en avait énormément, qui disent, voilà, si on est dans, si on arrose à l'hectare, c'est tant, c'est 220 euros l'hectare. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'attaquable, il n'y a plus de formule de réactualisation, etc. Ce qui avait, c'est ce qui nous a fait, enfin, c'est ce qui a fait, qu'ils ont eu gain de cause, la dernière fois. Donc là, maintenant, oui, effectivement, tout le monde pourrait attaquer, hein, et suspendre, effectivement, chaque fois, de relatif suspensif. Bon, après, voilà, après, est-ce que les paysans veulent la fin du canal des Alpines, hein, parce qu'on en est là, hein. Je tiens quand même à souligner la solidarité des communes, hein, y compris de celles qui avaient peu d'hectares concernés par le canal des Alpines, hein, parce que c'était pas gagné d'avance, même pour une avance de trésorerie. Donc voilà, ça montre quand même l'intérêt des communes pour ce canal, qui a un rôle certes agricole, hein, parce que c'est l'agriculture qui est la première concernée, mais pas que. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Il y a tout l'aménagement paysager, le corridor bleu et vert, la trame verte et bleue, parce qu'il y a aussi toute une répille sylve. Et il y a également toute l'aménagement des puits. Enfin bon, je crois qu'on pourrait en dire, hein, sur le canal des Alpines, il y a bien sûr l'agriculture, mais pas que.
Dernière question. À la ZAD de Saint-Andiol, il n'y a pas des élus de Saint-Andiol qui siègent ?
Parce que c'est bizarre. Ici, nous avons deux représentants. Alors, c'est le problème du syndicat intercommunal, c'est que ce sont les élus qui siègent. Hein. C'est-à-dire que les agriculteurs, bon, nous, enfin, depuis que je suis présidente, j'ai fait rentrer la chambre d'agriculture en tant que. Comment dire, que partenaires, voilà, donc ils sont invités, ils ont les comptes rendus, ils assistent. Mais là, la mairie Saint-Andiol, donc, a deux délégués, dont un, c'est deux élus, dont un, il se trouve qu'il est trésorier de la ZAD de Saint-Andiol.
Il est pour le contentieux, il est pour aider la ZAD à trésorerie.
Je ne ferai pas de commentaire.
Enfin, en tout cas, encore une fois, hein. Félicite la présidente parce que quand vous participez aux réunions du SICAS, c'est le royaume du Yaka Faucon. Yaka couper l'eau, Yaka faire payer l'État, Yaka, oui, mais concrètement, comment on fait, quoi? Comment on paie les salaires à la fin du mois? Voilà. Et c'est ce à quoi s'attelle Gisèle depuis des années. Bien. On va passer à un dossier peut-être plus léger. Donc, il s'agit de la clôture du budget annexe de l'ORIG. Donc, on vous propose de reprendre l'excédent prévisionnel qui est inférieur à 300 euros. Donc, voilà, c'est un budget qu'on clôture sur lequel il ne reste pas grand-chose. Sur cette clôture ?
Il n'y a pas grand-chose. C'est un petit budget pour l'autre. On n'a pas voté pour. On vote contre aussi.
D'accord. Alors, qui est contre cette proposition de clôture du budget annexe de l'ORIG ? 8 contre. Abstention. Adopté. Et maintenant, M. Faverge, pour le tarif des services publics. Abaissez le micro.
Donc, le tarif des services publics, c'est une délibération que l'on examine chaque année, en fin d'année, et qui s'applique à partir du 1er janvier de l'année suivante. Le tarif des services publics, donc la délibération, pardon, fixe l'ensemble des tarifs publics qui sont proposés par la commune, que ce soit les photocopies, le coût de location de l'Alpilium, le droit de place des marchés, les tarifs de cantine, les tarifs de spectacle à l'Alpilium, etc., etc. Il y a 20 pages dans la délibération, il doit y avoir à peu près plus de 300 lignes, je vais peut-être pas toutes les passer en revue. D'autant que peu ou prou, il y a pas beaucoup de changements, il y a une augmentation de l'ordre de 2%, sachant qu'avec les arrondis, ça peut parfois faire un petit peu plus ou parfois un petit peu moins, mais dans l'ensemble, les tarifs sont reconduits à quelques exceptions, et notamment une exception concernant les tarifs des parkings, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je vous cite les exceptions. Il y a l'emplacement pour les camions, ce qu'on appelle communément les camions pizza, donc les camions de restauration de vente à emporter, qui sont à 47 euros par mètre carré par an et qui passent à 60 euros par mètre carré par an. En fait, ça concerne deux camions aujourd'hui installés sur le domaine public de la commune. Donc si on prend un camion de 15 mètres carrés, ça fait à peu près 900 euros par an, ça fait à peu près 75 euros par mois. Je pense pas que ce soit une somme insupportable. Et ensuite, on a créé un nouveau tarif. Alors, c'est pas pour le plaisir de le créer, c'est parce qu'on est confronté à un petit problème. Il s'agit d'un tarif pour les frais de dossier relatifs aux redevances de terrasses ponctuelles pour extension, qui sont liées aux manifestations communales. Quand il y a des manifestations communales, vous savez que les restaurateurs, les hôteliers, les cafetiers souvent demandent des extensions ponctuelles. Jusqu'à présent, l'arrêté qui était préparé par les services et signé par le maire était fait gratuitement, mais il s'avère qu'un certain nombre de cafetiers, enfin de demandeurs, faisaient la demande un peu par précaution, par prudence, et en fait ne s'en servent pas. Donc ça crée du travail et des complications pour les services inutiles, d'où la décision de fixer de façon plus ou moins symbolique ce frais de dossier à 10 euros. Voilà pour les changements. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses supplémentaires. Il y a des suppressions lorsque la technologie évolue, par exemple, suppression de la transmission de dossiers sur disquette, parce que les disquettes n'existent plus. Donc je ne crois pas que ce soit utile de le garder. Les frais de dossier pour la crèche, 15 euros. Je crois qu'on en avait débattu en conseil municipal déjà. Voilà pour les quelques modifications.
Par rapport aux augmentations que vous dites que ça a augmenté de 2%, il y a juste les redevances et les terrasses annuelles qui sont presque à 7%, à presque 7% d'augmentation.
Oui, oui, mais je vous ai dit que ça avait augmenté en moyenne de 2%, après qu'il y avait des arrondis qui faisaient qu'effectivement parfois ça pouvait être plus, et notamment sur les redevances des droits de terrasse. Vous avez tout à fait raison. Et concernant les tarifs des parkings et notamment les macarons, vous voyez qu'on a exactement les mêmes tarifs en 2017 qu'en 2016, parce que notre volonté, en fait, c'est à la fin de l'année, on en a parlé ici, on l'a souvent évoqué, à la fin de l'année, de faire un bilan d'un an d'horodateurs, enfin pas tout à fait un an, puisque les horodateurs ont été installés fin mai, début juin, de faire une année de fonctionnement avec les nouveaux horodateurs, d'examiner l'ensemble des remarques et des demandes des usagers et éventuellement d'adapter les choses début 2017. Donc on sera peut-être amené à reparler du tarif des parkings et des macarons au début de l'année 2017, mais pour l'instant on conserve ceci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
S'il n'y a plus de questions.
Pour moi, j'ai trouvé le pourcentage de l'augmentation des prix des repas de la cantine un peu élevé, puisqu'ils ont augmenté de 2,43%.
Oui, ils augmentent de 2,43%. Enfin, j'ai pas calculé le pourcentage, mais ils augmentent de 5 centimes, en fait.
Oui, mais ça fait quand même
2,43%. Parce que c'est compliqué de mettre un tarif qui soit... On était à 2,05. À la rentrée de 2017, ils passeront à 2,10. Je prends le premier tarif, mais l'augmentation, elle est de 5 centimes pour tous. C'est compliqué
par rapport
de
à l'inflation, c'est supérieur, c'est assez cher.
De 2,05 à 2,05.
Les familles défavorisées.
De 2,05 à 2,10, on augmente de 2,38%, d'accord ?
2,43%.
On ne doit pas avoir la même calculette, ça fait 2,38. C'est parce que si on prend l'inflation de l'année, on va tomber sur un chiffre qui sera à 2,8,23. Donc c'est arrondi à 2,10. Et j'en profite au passage pour signaler que les tarifs étaient stables. Donc sur la période passée, il n'y a pas eu d'augmentation. Effectivement, au moment où on augmente un petit peu plus que 2%, je suis d'accord, mais encore une fois, c'est lié aussi à l'arithmétique des choses.
Nous restons dans la frange basse des tarifs de restauration scolaire dans la région. Nous restons dans la frange basse et ça représente moins d'un euro par mois, l'augmentation.
Ah, ma calculatrice fonctionne comme d'autres. Merci Michel.
Non, je ne remettais pas en cause votre calculatrice.
Non, mais je disais à M. Fabergeon.
Par un 3, de 38, je ne sais pas, mais bon.
Par rapport au repas, l'augmentation de 2,43, le CCAS fait des repas à domicile et l'augmentation est environ autour de 1%. Je pensais que cette façon linéaire d'augmenter les repas dans la ville pourrait se faire.
Je voulais juste préciser qu'on restait encore en dessous de la moyenne, voilà. Même avec cette augmentation.
D'accord.
Voilà. C'est quand même un élément à prendre en compte.
Et puis, accessoirement, le CCS est souverain, il a un conseil d'administration, donc c'est le CCS qui décide.
Oui, mais
on n'est pas obligé de s'aligner.
Les mêmes produits de la région, ils peuvent faire des repas en fonction que les cantines. Pareil, de la même façon que les cantines.
Bon, 5 centimes de plus par repas, je crois que ce sera supportable.
Moi, je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est les 2,10 € par repas. On est sur des repas de qualité, Michel Bonnet peut en témoigner, à 2,10 € par repas.
Oui, mais c'est le principe.
Je ne vois pas quelle famille peut nous reprocher de la ruiner.
On n'est pas à 2,10 €.
Pourquoi vous les avez en
excusez-moi, monsieur le maire, mais 2,10 €, c'est pour la tranche la plus défavorisée. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3 € en moyenne, je dirais, pour la participation famille. Mais ce qui est important à rappeler, c'est que, comme dans toutes les collectivités, quasiment, les chiffres sont à peu près identiques. Un repas servi revient à 10 € à la collectivité. Donc sur les 10 €, si les familles versent en moyenne 3 €, je pense qu'on reste dans des choses extrêmement raisonnables. Voilà. Et franchement, quand vous passez dans d'autres niveaux de la scolarité, collège et lycée, ça augmente singulièrement.
Je reste sur mes idées, je reste sur ma conviction. Ça ne me convainc pas. Et par rapport au terroir des Alpilles, l'augmentation de 5,26%, alors que pour le marché du gros soupé, c'est 1,88%. Pour les centonniers, c'est 1,88. Pour les journées des potiers, c'est 1,44. Et tout d'un coup, pour le terroir des Alpilles, c'est 5,26 d'augmentation. Là aussi, c'est pour arrondir un peu le tarif, je pense.
Mais le terroir des Alpilles est à 19 €, il passe à 20 €.
Voilà, c'est pour arrondir. Voilà. On va dire.
On peut effectivement passer à 19,60 et quelques, mais il passait à 20 €. Ouais.
Et le manège enfantin, qui je pense est un peu un facteur social pour les enfants, il a augmenté, si ma calculette n'a pas été défaillante, de 5,76. Et je trouve que c'est beaucoup aussi pour ce monsieur qui fait marcher le manège. Il n'y a que ça pour les enfants en ville.
Alors, j'ai dit qu'il y avait, quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit qu'il y avait effectivement à peu près 2% et qu'il y avait quelques exceptions. Parmi les exceptions, j'ai cité le camion pizza, enfin ce qu'on appelle le camion pizza, même quand il vend des frites d'ailleurs. J'ai pas parlé du manège. Effectivement, le manège, il est installé et il a une augmentation. Vous avez dit combien? J'ai pas calculé celle-là, mais
5,76.
Il nous a semblé au regard du. De la somme demandée, qu'on restait quand même dans un montant très raisonnable. D'accord ? Puisque je ne l'ai pas sous les yeux, mais on doit être à 220 € par mois. OK ? Donc ça veut dire qu'on est à moins de 8 € par jour. 4 tours de manège pour ceux qui savent. Voilà. Bon, je crois que.
Quand même. Quant au camion restauration, là, lui, il a eu une augmentation de 27,67. Hein. Alors là, on est loin des 2% annoncés.
Mais je l'ai cité en exemple tout à
l'heure.
Oui,
je sais. Mais vous n'aviez pas donné le pourcentage.
Le camion de restauration, on était à 47 € en 2016. On passe à 60 € par mètre carré et par an.
Oui, oui.
Non, mais c'est important de donner la totalité de l'information. On passe de 47 à 60, donc effectivement, on n'est pas sur une augmentation de 2 €. Parce qu'il nous a semblé que 60 € par mètre carré par an, si on prend un camion qui fait à peu près 15 mètres carrés, ça fait 900 € par an, mm-hmm. Ça fait 75 € par jour, ça fait fait 2,50 € par jour. Bon, c'est pareil, une part de pizza, je crois que ça vaut 2,50 €. Je connais le prix de la part de pizza, tiens, tu vois. Donc, chaque jour, je vais acheter une part de pizza, je lui payerai son emplacement. Voilà.
Hein? Non, mais c'est pas ça. Mais vous n'aviez pas donné le pourcentage. Donc je complète et je vous dis que ça fait 27,67. Voilà. Et que de 47 pour arrondir, on pouvait, pour simplifier les mathématiques, passer de 47 à 50 sans passer pour autant de 27 à de 47 à 60.
Et Madame Aoun, je vais vous donner une autre information que vous n'avez peut-être pas. C'est que, en général, quand on regarde les tarifs, on regarde aussi ce qui se pratique sur d'autres communes. 60 € par mètre carré par an pour un camion pizza, c'est vraiment pas cher.
Eh oui, mais nous, les autres communes, on peut pas avoir accès. On est dans l'opposition.
Ah non, c'est très simple. Il suffit d'aller sur les sites internet des communes.
On peut pas y aller. On peut pas savoir.
Vous allez sur les sites internet des communes. Vous avez en général les tarifs des services publics. C'est très, très simple.
Ah oui, c'est le fameux monsieur gouv.org dont se moquait monsieur le maire, c'est ça?
Non, vous prenez la commune qui vous intéresse, La Rochelle, Dunkerque, et en général, pas toutes, mais en général, il y a les tarifs des services publics, voilà.
Oui, ben on en fera quelques-unes, d'accord.
Oui,
ben
voilà. Mais ce sont les tarifs pour le droit d'occupation du sol, on ne parle pas de ce qui se fait dessus. On fait payer une occupation du sol, non? Alors, ce qui se fait dessus, qu'on vende des frites ou qu'on vende un steak, ça n'a pas d'importance.
Ah non,
on va
non,
pas
non.
Se baser là-dessus.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les sites des communes et après on reparlera. Parce que je
ça,
pense
c'est
que
possible.
Vous ne ferez pas la même
par
remarque.
Par rapport aux communes, peut-être, mais.
Vous ne ferez pas la même remarque.
Peut-être. Écoutez, à Saint-Rémy, globalement, les tarifs d'occupation du domaine public sont pas chers. Sont pas chers, un par rapport aux autres communes et surtout par rapport à l'activité que ça génère. Franchement, de ce côté-là, on peut en parler toute la soirée si vous voulez, mais il y a vraiment, il n'y a pas photo. Hein. Les tarifs sont pas chers. Et d'ailleurs, depuis qu'on vote les tarifs des services publics, j'ai pas vu un commerçant à Saint-Rémy nous dire « Ah ben écoutez, c'est trop cher, non, j'arrête, je fais plus, parce que vraiment, vos tarifs sont rédhibitoires et je m'en sors pas. » Pas un. Et vous rappelez, monsieur Gay, l'année où on a augmenté de 30% l'occupation du domaine public pour les terrasses, vérandas, etc., etc., vous nous avez dit, oh, c'est pas possible, ils vont... Je vous avais répondu, vous verrez, il n'y aura pas un courrier, il n'y en a pas un qui demandera de retirer sa terrasse. Et effectivement, personne ne nous a demandé de retirer sa terrasse. Donc bon, voilà, il faut être conscient de où on est, quoi. On est à Saint-Rémy-de-Provence, qui est une ville attractive, qui fonctionne très, très bien. Tous les chiffres, tous les indicateurs nous le confirment régulièrement. Donc, à un moment donné, qu'on s'aligne sur les autres communes, alors que l'activité est plus importante, ça me paraît pas scandaleux, quand même. Hein.
Monsieur le maire, vous oubliez le prix des parkings.
Et quel est le rapport ?
Eh ben, 2 euros de l'heure, c'est pour moi une somme énorme.
Non, mais et quel est le rapport entre ça et...
Eh ben, c'est les services.
Des pizzas,
ce sont des... Ben, bien sûr, aucun, on est bien d'accord. Mais quand même, on est à Saint-Rémy, là aussi.
Eh bien, oui. C'est le même prix qu'à Arles.
Bien d'accord.
Il y a qu'un quart d'heure. Et Arles, vous avez qu'un quart d'heure de gratuité. À Saint-Rémy, on en a trois quarts. Bon, voilà.
On est bien d'accord. Mais c'est pareil qu'à Arles. Tout le monde n'est pas heureux d'avoir un prix pareil.
Écoutez, c'était un choix hein, de la collectivité. Voilà. C'était ça ou l'augmentation des impôts. Je pense qu'on a fait le bon choix. Bien, alors, sur ces tarifs des services publics locaux... On passe aux voix. Qui est contre ? Pas de contre ? Abstention ? C'est 8 abstentions. Adopté. Ah ben, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Vous n'avez pas voté contre. Alors, dossier d'intercommunalité. Bon, ça, c'est déjà passé pour les élus qui siègent en conseil communautaire. Vous avez déjà vu cette délibération. C'est passé le 2 novembre 2016 à la CCVBA. Donc, il vous est proposé d'adopter la modification des statuts de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles et d'adopter, pour que la CCVBA acquiert la compétence facultative contribution obligatoire au financement du service départemental d'incendie et de secours. Donc, en gros, la commune ne paiera plus la contribution aux SDIS, 620 000 euros par an, hein, c'est ça ? Donc la commune ne l'opéra plus, donc baisse des dépenses de la commune. Mais d'un autre côté, la commune aura 620 000 euros de moins de dotation de la communauté de communes. Donc baisse des recettes et baisse des dépenses pour la commune. Et pour la CCVBA, baisse des dépenses de 620 000 euros, évidemment, puisqu'elle n'opéra plus la contribution à la commune. Par contre, augmentation des dépenses de 620 000 euros puisqu'elle opéra la contribution aux 10. Donc là aussi, opération blanche pour la CCVBA. L'intérêt de tout ça, au-delà du jeu d'écriture, c'est que ça va permettre à la CCVBA d'augmenter son CIF. CIF, c'est le coefficient d'intégration fiscale. C'est le chiffre qui permet, c'est le chiffre sur lequel s'appuie l'État pour calculer les dotations à la CCVBA. Et plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, plus évidemment la CCVBA a de dotations. Et le coefficient d'intégration fiscale, il est d'autant plus élevé que le PCI, donc en l'occurrence là la CCVBA, a de compétences. Donc ça nous permet d'augmenter ce chiffre, donc d'augmenter, alors que je dis d'augmenter ou peut-être de voir moins diminuer les dotations de la CCVBA. Voilà l'intérêt de la manœuvre et de ce jeu d'écriture entre communes et communautés de communes. On peut passer aux voix. Donc, qui est contre cette modification de statut et cette adoption de compétences facultatives, contribution obligatoire aux 10 ? Pas de contre ? Abstention ? Unanimité. Alors là aussi, il s'agit d'une délibération qui est déjà passée à la communauté de communes le 2 novembre 2016. Il s'agit donc d'une décision conjointe commune-intercommunalité. Il s'agit donc de la fiche d'impact liée au transfert de compétences des communes dans la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Donc ça concerne la collecte des ordures ménagères, vous savez qu'elle sera transférée au 1er janvier 2017. Ça concerne le tourisme, vous savez qu'il sera aussi transféré au 1er janvier 2017. Et ça concerne également l'eau, même si aujourd'hui c'est une régie qui la gère. Voilà, et donc les fiches d'impact, eh bien, elles retracent tous ces mouvements de personnel qui accompagnent ces transferts de compétences. Pas d'intervention ? Qui est contre cette proposition d'adoption des modalités de transfert des agents transférés au 1er janvier ? Pas de contre ? Abstention ? 8 abstentions. Adopté. Vous l'avez voté en communauté de communes. Pas très cohérent, mais bon, c'était le choix. Alors, délibération suivante. Il s'agit de la délégation du droit de préemption urbain dans les zones artisanales. Vous savez que c'est la communauté de communes qui gère les zones artisanales. Puisqu'elle a la compétence développement économique, donc les zones de la gare et les zones de la Massane. Donc aujourd'hui, c'est la communauté de communes qui effectue les travaux, qui paie l'électricité, etc., etc. Donc c'est géré par la communauté de communes. Et la logique, eh bien, c'était que ce soit la communauté de communes qui ait le droit de préemption dans ces zones. Alors c'est une délégation, c'est pas un transfert, ce qui veut dire que la commune peut, si elle le souhaite, et si la communauté de communes n'est pas intéressée, faire jouer son droit de préemption dans ces zones. Voilà. Bon, évidemment, chaque fois que la communauté de communes sera saisie, ça se fera en partenariat avec la commune, les communes seront consultées, c'est la moindre des choses. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, on essaie de travailler en bonne intelligence. Voilà, donc, pour cette délégation du droit de préemption.
Simple question, quand vous évoquez la possibilité de préempter soit commune, soit communauté de communes, qui est prioritaire ?
La communauté de communes.
D'accord, donc vous abandonnez une fois de plus un pan de notre indépendance saint-rémoise en pensant que vous aurez encore la possibilité au niveau du conseil communautaire de peser sur la décision.
Dans l'immédiat, jusqu'en 2020, je pense avoir quelques petits pouvoirs pour peser sur la décision, effectivement, en ce qui concerne la communauté de communes.
Vous savez, tout change. Hein.
Comment ?
Tout change. Mais moi, je voudrais revenir sur ce sujet, sans partir dans des discussions. Pourquoi vous le faites ? Vous êtes obligé de le faire ? Il y a quelque chose qui motive ça
ou... On est dans la logique des choses, M. Milan. Dans la mesure où vous avez une collectivité qui gère une partie du territoire fut-il communal, il est normal que ce soit cette collectivité qui puisse bénéficier du droit de préemption. Si demain, il y a un terrain vierge qui se vend dans une zone, je vous rappelle qu'il s'agit uniquement des périmètres des zones où intervient la communauté de communes via la compétence développement économique. Demain, il y a un terrain vierge qui se vend dans une de ces zones, ou même un local, parce qu'une entreprise ils arrêtent, ou bon, peu importe. Il est normal que ce soit la collectivité qui a la compétence, à savoir la communauté de communes, qui soit prioritaire sur le droit de préemption, plus que la commune. La commune ne va pas acheter un terrain en zone artisanale pour y faire du développement économique, dans la mesure où c'est l'interco qui a la compétence. Là, on est quand même dans du bon sens. On ne transfère pas comme ça des compétences ou des pouvoirs pour le plaisir ou pour s'en débarrasser. Vous savez ce que je pense des... On en reparlera tout à l'heure, hein. Vous avez une motion sur la table, hein. des transferts de compétences forcées et des grosses structures. Mais là, on est dans la logique et dans le bon sens. Ça me paraît totalement rationnel. Aujourd'hui, pourquoi la ville de Saint-Rémy irait acheter un terrain en zone artisanale alors que la compétence économique ne l'a plus, le développement économique ne l'a plus? Et ça, c'est pas le choix de la collectivité. C'est la loi qui l'a imposé. C'est par essence. Hein. Ça a au moins 10 ou 15 ans, hein, le transfert de la compétence économique aux EPCI, aux établissements publics de coopération intercommunale. Donc bon, ben voilà, on essaie de faire les choses de manière logique et rationnelle.
Oui, mais ça veut dire en fait que vous n'aurez plus le droit de voir qui s'installera, quel type d'activité s'installera. Imaginons une usine de méthanisation, quelque chose de dangereux dans ce style-là. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'avez plus la possibilité de vous y opposer ?
Monsieur Milan, les installations des entreprises en zone, elles sont décidées au niveau de la communauté de communes, mais ça passe en commission, les commissions se réunissent là, salle à Marcel Bonnet, la personne qui préside la commission, c'est Yves Faverjon, il y a des élus qui représentent l'ensemble des communes, et en général, quand on installe une entreprise sur une commune, c'est avec l'assentiment de la commune concernée. Encore une fois, on essaie de travailler en bonne intelligence. Alors, évidemment, vous allez me répondre, tant que ça se passe à un niveau, dans un périmètre raisonnable. Hein, périmètre de la CCVB actuelle, ou à la limite demain, un périmètre arlésien.
Exactement.
Si c'est un périmètre départemental, ça risque d'être autre chose.
Exactement.
Donc, on fera tout pour ne pas intégrer justement ce périmètre départemental.
Mais
encore une fois, ça va faire l'objet d'une délibération qui suit.
Vous savez ce que tous les deux nous pensons des commissions. Moi, j'ai ma phrase, vous avez vos 400 places, donc vous savez pertinemment qu'elles ne sont qu'un moyen de détourner le problème. Et je ne comprends toujours pas pourquoi vous abandonnez ça. Vous m'avez pas donné de raison logique. Non, ne recommencez pas. Si vous avez rien d'autre à me dire, c'est pas la peine. Mais Monsieur le maire, j'alerte. Attends, excusez-moi, Monsieur Faverjon, mais j'alerte. Je vous alerte. C'est une question de responsabilité. Vous avez totalement raison de dire que si demain, pour raison X, Y, nous ne sommes plus en maîtrise de diriger la communauté de communes, ou que nous sommes reversés ailleurs, nous allons perdre cette prérogative qui me semble indispensable. Sinon, à quoi on sert, une fois de plus?
Juste, moi je veux bien entendre beaucoup de choses autour de cette table, mais dire que les commissions ne sont qu'un moyen de détourner le problème, c'est votre vision de la commission. Laquelle commission, laissez-moi terminer monsieur Milan, laquelle commission lorsqu'elle a été créée au niveau de la communauté de communes, je vous ai proposé d'y participer, vous n'avez pas voulu venir dans la commission, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, et laquelle commission quand elle se réunit, elle réunit des élus de la mairie de Saint-Rémy, c'est normal, de la commune de Saint-Rémy, des élus d'autres communes qui forment un tout intercommunal et qui examinent dossier par dossier les installations dans les zones activité intercommunale. Et quand on a des doutes, parce qu'il y a des dossiers qui effectivement peuvent être un petit peu surprenants, litigieux, on reçoit en entretien les porteurs de projets, on leur demande, on leur pose toutes les questions qu'on a envie de leur poser. Et quand on a encore des doutes, on va vérifier auprès du service d'impôts qu'ils soient en règle, etc., etc. Alors, vous pouvez dire que c'est pas du travail, vous pouvez dire que c'est qu'un moyen de biaiser, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, ce que je sais, c'est que les commissions, et la commission notamment sur l'attribution des terrains, elles siègent, elles travaillent de façon rigoureuse. Et puisque vous n'avez pas voulu y siéger,
pas pour tout.
Difficilement en parler, mais demandez, si vous ne me faites pas confiance, vous demandez aux autres personnes qui siègent.
Mais je n'ai pas demandé d'autres personnes qui siègent. Je peux vous dire que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas contents de ce qui se passe dans cette commission. Donc, mais je ferai comme vous, je ne donnerai pas de nom. Par contre, concernant le problème des commissions, je vous pose une question qui a été posée par Mme Dayan en commission des Cèdres. En s'étonnant que Monsieur le maire propose de facto 400 places de parking en plus de son projet, alors même que la commission n'en avait pas débattu. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une situation qui mène exactement à mes conclusions. Mais au-delà de ça, je ne suis pas là pour faire une polémique. Ce que je pense sincèrement et profondément, c'est que c'est une erreur magistrale et qu'elle n'a aucune justification si ce n'est de se simplifier la vie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et je tenais à vous le dire et à le faire enregistrer.
Bien, donc acte, Monsieur Milan, mais vous verrez, on en reparlera dans quelques années, cette délibération ne pose pas de problème, elle posera pas de problème à la ville de Saint-Rémy. Et si demain, on doit changer de périmètre, disons un périmètre hors arlésien, hein, on dira ça comme ça, vous inquiétez pas qu'avant de le faire, on prendra un certain nombre de délibérations pour revenir sur tout un tas de choses, comme on fait un certain nombre d'intercommunalités avant d'intégrer la métropole. Voilà. Ça, comme ça, au moins, c'est clair. Là, dans les médias, ça ne me pose aucun problème et ça ne posera pas de souci à la ville de Saint-Rémy. Si jamais demain, on doit être sur quelque chose d'autre, on fera comme les autres. On fera des lignes imaginaux entre-temps. Voilà, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, sur cette délégation du droit de préemption urbaine dans les zones artisanales, qui est contre ? 8 contre. Abstention ? Adopté. Alors, les dossiers jeunesse. Monsieur Bonnet. Le dossier, pardon.
Oui, un sujet sans doute moins sensible. Donc, il s'agit de la signature d'une convention d'accueil de bénévoles dans le cadre des activités mises en place auprès des enfants et des jeunes. Donc on accueille un certain nombre de bénévoles et on souhaite sécuriser juridiquement, je dirais, cet accueil. Donc il s'agit de participation de parents ponctuellement, de professionnels ou d'amateurs dans le cadre des activités, des projets qui sont mis en place, et principalement dans le cadre des ateliers périscolaires et des activités de la maison de la jeunesse. Donc les personnes bénévoles, c'est important à préciser, ne remplaceront en aucun cas le personnel en charge des temps d'accueil des enfants. Je prends un exemple d'un projet à la maison de la jeunesse qui est par exemple d'accueillir des parents pour faire découvrir des métiers différents. Donc des parents qui exercent ces métiers peuvent être intéressants à faire intervenir à la maison de la jeunesse, et bien évidemment ils ne sont pas seuls face aux jeunes. Voilà, donc je propose au conseil municipal d'autoriser le maire de signer la convention avec chaque nouveau collaborateur occasionnel du service public selon le modèle que vous avez en pièce annexe.
Pas d'intervention. Alors, qui est contre cette signature de convention ? Abstention ? Unanimité ? Les dossiers de personnel, M. Favergeau ?
Alors, une délibération qu'on a déjà eu l'occasion d'examiner, enfin, une délibération semblable, suppression d'emplois au tableau des effectifs. Alors, il ne s'agit pas de supprimer des postes, vous l'avez tous compris. On est sur l'effectif théorique. Il y a 56 postes qui aujourd'hui ne sont pas occupés ou plus occupés. La plupart du temps, c'est parce que les agents ont évolué dans leur carrière et donc ils ont été nommés sur d'autres postes. Donc en fin d'année, chaque année, on toilette l'effectif théorique après avoir soumis, demandé un avis au comité technique dans lequel siègent des représentants du personnel et des représentants des élus. Donc ce qui vous est proposé, c'est la suppression de la liste de postes. Je crois qu'il y en a 56 en tout, de telle manière d'avoir un effectif théorique qui soit un organigramme théorique qui soit un petit peu plus lisible. Voilà.
Parfait. On peut passer aux voix. Qui est contre cette liste de propositions de suppression d'emplois théoriques ? Pas de contre. Abstention ? Unanimité. Ensuite.
Donc là, il s'agit de la création d'emplois réels pour permettre l'intégration dans les services municipaux d'agents qui sont contractuels et remplaçants dans différents services, à la bibliothèque, au service technique et au service scolaire. Donc il y a 6 nouveaux emplois qui sont proposés. Un emploi d'adjoint technique du patrimoine, 4 emplois d'adjoint technique, et un emploi d'adjoint d'animation. Question.
Oui.
Création d'emplois au tableau des effectifs.
Bien. Pas de questions ?
Oui, mais c'est 1 et 4 alors. 1 et 4 et 1, ça fait 6.
C'est ça.
D'accord.
Eh oui. Parce que sur l'autre, on voyait qu'on passait de 4 à 6 et c'était pas normal, quoi, évidemment.
Oui. Il y avait un copier-coller malheureux.
Est-ce qu'on peut passer aux voix ? Alors, qui est contre cette proposition de création d'emploi au tableau des effectifs ? Pas de contre. Abstention ? 8 abstentions, adopté. Ensuite.
Oui, c'est une délibération qui nous permet d'améliorer la sécurité au travail et la prévention des risques. Censément, depuis un décret qui date de 85, les communes doivent avoir dans leurs effectifs un ACFIS, un agent chargé de la fonction d'inspection. Elles ont cette possibilité ou elles ont la possibilité, c'est ce que nous avons choisi, nous.
Il y en a une avant celle-ci.
Il y en a une avant celle-ci ? Ah, c'est quoi ?
C'est le recrutement d'agents contractuels.
Ah, pardon. Je me suis dans le désordre alors. Recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin occasionnel ou lié à un accroissement d'activité. J'ai voulu aller trop vite. Donc ce qui vous est proposé là, c'est de donner la possibilité au maire de créer un poste d'un agent contractuel à temps complet qui sera au grade d'adjoint administratif de deuxième classe et qui sera au service de la DRH. Alors c'est lié en fait à un congé maternité et un jeu de chaise musicale avec un agent qui part à la retraite.
Bien. qui est contre cette proposition ? Abstention ? 8 abstentions, adopté. Ensuite, donc.
Donc, je vais retrouver l'ordre. Dans le cadre de la prévention des risques au travail, je disais que les communes ont la possibilité d'avoir un ACFI, un agent chargé de la fonction d'inspection, qui vient collaborer et superviser le travail de ce qu'on appelait l'ACMO et qui est en fait l'agent de prévention. Donc ici, à Saint-Rémy, on a un ACMO, un agent de prévention, M. Tournasset, que tout le monde connaît. Et nous n'avons pas d'ACFI, pardon, parce que comme la loi nous l'autorise, on a possibilité de conventionner avec le CDG, et c'est ce que nous vous proposons là, pour un temps de travail de 4 jours par an. C'est une convention qui est passée pour 3 ans, en fait, puisqu'elle est renouvelable 2 fois, et pour un montant de 2452 euros. Donc la personne en question, elle peut venir faire des inspections dans des services ou si elle est alertée par un problème particulier et conseiller, proposer des solutions.
Bien. Sur cette convention, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Des ACMO et des ACFI. Alors, on passe maintenant au budget annexe de la Régie de l'eau. On vous propose de créer une autorisation de programme. Donc, autorisation de programme sur 3 ans pour les travaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, le renforcement des canalisations de refoulement de la station de pompage des Palus. Donc, 1 750 000, 650 000 en 2017, 600 000 en 2018 et 500 000 en 2019. Et tout ça, c'est sous le terme générique de travaux quartier des Palus, mais ça correspond à ce dont je viens de vous parler. Voilà. Si on crée cette autorisation de programme, on sait que ça sera repris lors du transfert.
On a bien compris le message, c'est pour ça qu'on votera pour.
Vous voyez, quand vous voulez.
Quand je vous dis qu'on coopère, monsieur le maire, il n'y a que vous qui n'en êtes pas convaincu. On essaye de vous aider en permanence.
Je n'ai rien dit de négatif, j'ai dit comme vous voulez.
C'est génial, on va pouvoir se paxer. Pardon, excusez-moi.
Je peux te dire. Ah, vous savez que ça va être célébré en mairie à partir du 1er novembre 2017. Oui, effectivement, ça, on en parlerait, oui, c'est sûr. Ouais. C'était le cas.
Vous devriez trouver celui qui ferait ça, hein.
Bien.
Ou celle, pardonnez-moi, mesdames.
Je vous propose une autre autorisation de programme, donc celle du budget de la Régie de l'eau. On a voté. Vous m'avez troublé avec votre proposition. Je suis remué.
Ça a été voté ?
Oui, ça a été voté, oui. Oui. Alors, on poursuit avec des...
Vous n'avez pas voté.
Ah, mais j'y reviens, alors. Bon. Ouais. Il ne faut plus me dire des choses comme ça, c'est pas possible. Donc, sur l'autorisation de programme, donc 2017, 2018, 2019, le montant global, 5 750 000 en 3 tranches. Donc, qui est contre ? Abstention ? Unanimité, parfait. Alors, décision modificative numéro 2 de la Régie de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu à la communauté de communes, puisqu'il s'agit de remboursement de salaire entre la Régie de l'eau et la Régie de l'assainissement. Donc, on a passé la délibération correspondante à l'intercommunalité pour la Régie intercommunale de l'assainissement. Et là, on vous propose donc la même chose pour la Régie de l'eau. Enfin, la même chose, inversée, évidemment, le pendant, quoi, pour la Régie de l'eau. Donc, ce sont des dépenses et des recettes en section de fonctionnement à hauteur de 90 000 euros. Et encore une fois, ce sont des échanges de salariés entre les deux régies. On peut passer aux voix. Qui est contre cette décision modificative numéro 2, Régie de l'eau ? Pas de contre. Abstention ? Adopté. Unanimité. Ensuite, on vous propose le versement d'une contribution à l'amicale du personnel pour l'exercice 2016. Donc c'est la Régie de l'eau qui verserait à l'amicale du personnel municipal. Bon, la Régie, et n'ayant pas forcément la taille critique pour avoir une amicale du personnel, la Régie travaille avec l'amicale du personnel communal. Donc, on vous propose une participation de la régie, eh bien, au prorata du nombre d'agents entre la régie et l'amicale du personnel. Donc, ça représente la somme arrondie, évidemment, de 1 000 euros. Donc, qui est contre cette proposition de versement d'une contribution amicale du personnel à hauteur de 1 000 euros ? Pas de contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, comme on l'a fait pour le budget principal de la ville, on le fait pour le budget annexe de la régie de l'eau. On vous propose des admissions en non-valeur et des créances éteintes. Donc, admission en non-valeur 3876,83 et créances éteintes 2053,17. Évidemment, il s'agit de factures d'eau, hein, pas besoin de vous le préciser. C'est bon, on peut passer aux voix. Donc, sur ces admissions en non-valeur et créances éteintes, qui est contre ? Pas de contre. Abstention. 8 abstentions. Adopté. Passons maintenant au dossier urbanisme. Alors, on vous propose l'acquisition. Alors, quand je dis l'acquisition, c'est à l'euro symbolique. Hein, c'est pratiquement une cession. Hein. L'acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle destinée à l'aménagement de la voirie avenue Joseph-Franck-Lapers. C'est la voie poste numéro 28. Donc, en fait, il s'agit de la moitié de la voie, quoi. Et il était prévu dans la convention avec l'aménageur que cela reviendrait à la commune avec une vente à l'euro symbolique. Gratuitement, quoi, hein, pour dire les choses clairement. Voilà. C'était prévu dans le dossier de lotissement. Pas de remarques. Qui est contre cette proposition d'acquisition ? Abstention ? Unanimité. Alors, deuxième proposition d'acquisition d'une parcelle. Cette fois, il s'agit d'un emplacement réservé chemin Gaulois. C'est la réserve numéro 76 du poste de la commune. En fait, c'est une parcelle où sont déjà implantés des lampadaires communaux. Donc la logique, évidemment, c'est que ça revient dans la commune. Cette fois, il s'agit d'un emplacement réservé et ce n'était pas dans la, comment dire, dans la convention de lotissement. Hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une voie, il s'agit de la partie située entre la voie et la partie sud du lotissement. Donc il vous est proposé d'acheter 247 mètres carrés au prix de 72 euros le mètre carré, ce qui représente une somme de 17 784 euros. Voilà.
Il me semble, Monsieur le Maire, que lorsqu'on avait parlé de ce, comment dire, de ce hameau, on va dire, au chemin Gaulois, on avait parlé justement de la difficulté à circuler, la difficulté à se croiser sur ce chemin Gaulois qui est très étroit. Et il me semble qu'à ce moment-là, vous aviez dit que le lotisseur, l'aménageur, ferait ce qu'il y aurait à faire. Or, apparemment, donc, ça n'a pas été fait. Et on trouve que 17 000 euros, enfin même presque 18 000, c'est énorme pour la mairie, alors que le chantier qu'a eu ce lotisseur lui permettait certainement de prendre en charge cette somme. Alors bon, c'est regrettable quand même.
Oui, enfin...
Parce qu'on n'est pas, à l'euro symbolique de l'avenue Franck-Lapers, là. Hein, on est à 18 000 euros, là.
On est bien d'accord, mais il ne s'agit pas de la même chose.
Je sais bien.
Il ne s'agit pas de la même chose.
Oui.
Là, il s'agit d'un emplacement réservé,
oui.
de terrain qui appartiennent donc à l'aménageur. Le prix, 72 euros, est particulièrement bas par rapport aux 400 euros qu'il a pratiqué dans cette zone. Donc ça a fait l'objet d'une négociation entre la commune et l'aménageur. L'aménageur, il n'avait pas vraiment l'intention de faire un cadeau de ces terrains. Hein. C'était signifié nulle part. Hein. Il a jamais pris cet engagement. Donc là, c'était une négociation entre l'aménageur et la commune. Et je peux vous dire que l'aménageur voulait beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on fasse une mauvaise affaire pour la commune. Hein, 72
Monsieur le maire, les terrains qui ont été achetés à l'aménageur, ils ont été achetés à quel prix ?
Les terrains qui ont été achetés à l'aménageur ?
Par l'aménageur. Ils ont été acquis à quel prix ? Du mètre carré. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez...
De 100 euros le mètre carré de mémoire.
Vous avez donné le permis, que je sache.
Oui.
Vous avez donné le permis de construire.
Ben oui.
pourquoi à ce moment-là...
On l'a pas donné, on l'a accordé.
Voilà, vous l'avez accordé, mais pourquoi n'avoir pas demandé en contrepartie l'agrandissement, une partie de la parcelle? Moi, je pensais que c'était ce que vous nous aviez dit.
Monsieur Mila, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous pouvez pas
lier
un permis de, mais non, vous pouvez pas lier un permis de construire à la cession gratuite d'un bout de terrain. Ça, on pouvait le faire il y a 20 ans. Depuis, les cessions gratuites ont disparu. Donc, chaque fois qu'on a une acquisition à faire, on la paie. Si Monsieur Guénon était là, il vous le rappellerait. Hein.
Attendez.
On a vraiment râlé contre ça, contre le fait que les cessions gratuites disparaissent. Donc, aujourd'hui, quand on a des emplacements réservés, on est obligé de négocier avec le propriétaire.
Non, mais ça fait pas longtemps que je suis dans la municipalité, mais j'ai l'impression que nous venons de voter avant une délibération où justement la commune récupérait un terrain au prix de 1 mètre, 1 euro du 1 euro. On est d'accord. Donc si ça, effectivement, c'est pas une cession gratuite, mais 1 euro, j'aurais préféré que l'aménageur nous en fasse. Le même prix.
Encore une fois, tout à l'heure, il s'agit de la moitié de la voie. C'est la moitié de la voie. Vous prenez le plan, je pense qu'il vous est fourni le plan.
Vous avez 240 mètres, là.
Avenue Franck-Clapper, c'est la moitié de la voie. C'est la voie qui monte, là, quand vous allez... c'est le lotissement qui est sur la gauche en montant avant d'arriver au canal. Là, c'est la moitié de la voie. Donc ça, dans la comment dire... Dans le règlement de lotissement, ça avait été négocié, ok, euro symbolique et tout. Là, il ne s'agit pas de la voie, il s'agit d'un bout de terrain entre la voie communale et le lotissement. Donc ça appartenait à l'aménageur. Il n'a aucune raison de nous en faire un cadeau. Hein. Et encore une fois, je crois qu'il nous le vend moins cher que ce qu'il a acheté. Donc si ce n'est pas un cadeau, c'est quand même un effort qui est fait pour la collectivité. Donc bon, voilà. Hein. Après, évidemment, j'aurais préféré qu'il en fasse cadeau à la commune. Hein. Si on pouvait s'exonérer de sortir 17 000 euros, on en aurait été ravis. Mais bon, mettez-vous à la place des agents de la collectivité qui ont négocié. C'était pas forcément évident d'arriver à ce coup. Hein. Et encore une fois, cette bande de terrain, c'est là où il y a l'éclairage public, donc qui est déjà installé. Donc il était normal d'accord. qu'il revienne
et à la commune. Si je comprends bien, il n'y a pas d'agrandissement programmé à ce niveau-là, aujourd'hui, de la voie.
Aujourd'hui, on n'a pas d'agrandissement programmé. Comment dire, je suis pas persuadé que les riverains du chemin gaulois soient très enthousiasmés par un agrandissement de cette voie.
D'accord.
Mais les usagers, oui.
Pardon ?
Les usagers, oui, seraient heureux. Parce que je ne vous dis pas, quand on doit y passer, deux véhicules, c'est vraiment problématique. Hein.
On est bien d'accord. Ceci dit...
Parce que le quartier du Grès est très mal desservi au niveau de l'accès au centre-ville. Hein. Sachez-le quand même.
Écoutez, moi, je suis très réservé sur l'agrandissement de cette voie qui a quand même certains cachets, qui est plutôt situé au piémont des Alpilles.
Oui,
donc,
d'accord.
Donc, faire des travaux d'agrandissement pour en faire une grande avenue...
Non, pas en faire une grande avenue, il n'est pas question. Ou alors, il fallait effectivement refuser le permis de ce parc Adrien, là. Voilà, tout simplement. Hein.
Le parc Adrien, il est desservi correctement. Il est au début. Il est desservi par l'avenue...
Oui, il est au début, d'accord, mais...
Comment ça s'appelle, celle-là?
Oui.
Comment on fait? Non, celle qui est perpendiculaire à l'avenue Van Gogh. Celle-là est relativement large. Non, c'est après, il faut le coup de marche.
Non, c'est le vieux chemin gaulois.
Comment elle s'appelle, celle-là, déjà?
Il y a un trou.
On a un trou collectif, bon, ça arrive.
Non, mais je veux dire, je suis surpris de votre réaction. Effectivement, on peut laisser tout en sentier non carrossable, marcher à pied, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas le but d'une collectivité. Si vous voulez développer ce côté-là, notamment le projet 7, vous savez pertinemment que vous avez besoin de voies de dégagement. Si vous voulez fermer l'avenue qui descend en centre-ville quand il y a des fêtes comme le 15 août, vous devez faire fermer. Donc, je comprends pas très bien votre attitude. Après, comme vous dites, c'est vous le maire.
Monsieur Mila, moi je suis très prudent sur les agrandissements de voies. Alors c'est l'avenue Joseph Darboux qui est large, hein, ça m'est revenu, mis un peu de temps. Bon, et en particulier celle-là, alors effectivement on se croise difficilement. Est-ce que c'est dramatique? Bon, de toute façon, vous le savez, il va y avoir une étude sur le déplacement à CRMI. Bon, peut-être que ça conclura au fait qu'il faut un petit peu l'élargir. On verra, mais bon, moi, je suis... Titre personnel, je suis réservé.
Surtout, en ramenant une telle masse de nouveaux habitants, on peut considérer qu'effectivement, ils ne partiront pas tous dans le même sens pour des raisons évidentes. Donc, et puis ça évite de faire tout le tour de Saint-Rémy si on veut partir en direction de Tarascon. Donc, moi, le premier, hein, vous rajoutez combien de lots il y a? 15, 20, donc je ne sais pas combien de lots il y a.
Et encore une fois, ce lotissement, il est accessible par l'avenue Joseph Darbeau. C'est après que ça pose problème. Enfin, moi, je vous trouve.
Je suis d'accord. Je suis d'accord, monsieur.
Sur les pro-circulations.
Non, mais vous. Parkings, non.
Les élargissements.
Non, mais monsieur le maire, on peut en convenir tous les deux. Il n'y a aucun souci sur le reste de l'avenue qui est bien trop large. On est bien d'accord. Mais ceci dit, entre gagner 3, 4 mètres et gagner 1 mètre, il y avait. Bon, il y a quand même un univers.
Mais je crois qu'on n'a pas délibéré sur cette acquisition. Donc sur cette acquisition, 17 784 euros. Qui est contre? 8 contre. Abstention. Adopté. Alors, la délibération qui suit, il s'agit de la proposition de prorogation de la mission du Pactarim et d'approbation de l'avenant à la Convention opération programmée d'amélioration de l'habitat OPH pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2016. Voilà, donc on fera un bilan sur l'année 2016 en février avec les gens du Pactarim et puis on verra si on reconduit en 2017 ou pas. Pour 2016, il vous est proposé la somme de 4 138,19 € hors taxes. Donc, ils ont suivi, ils ont eu 16 dossiers, dont 5 qui ont abouti en 2016. Voilà. Oui, M. Milan.
J'aurais préféré que le coût pour la commune soit beaucoup plus élevé, notamment dans la zone du centre-ville. Ça aurait permis de réhabiliter beaucoup plus de logements. Et l'argent, je pense, aurait été bien utilisé.
Ah, d'accord.
Vous voulez que je vous esquive ?
Oui, non, mais en fait, c'est forfaitaire. Hein. Le coût, c'est une journée par mois. Bon, après, évidemment, s'ils ont 4 fois plus de dossiers, peut-être qu'il faudra plus qu'une journée par mois, hein, c'est sûr.
Ouais, exactement.
Mais bon, c'est pour ça qu'on va faire le bilan avec eux, parce que, bon, effectivement, peut-être qu'on peut faire mieux. Non, c'est une journée. Hein. Oui, mais l'après-midi est consacré aux visites de terrain. Bien, sur cette proposition, qui est contre? Abstention? Unanimité? Alors, on poursuit avec un dossier vie économique, Monsieur Faverjon.
Alors, c'est un dossier FISAC. C'est un dossier FISAC. La dernière fois que je vous ai présenté une délibération de ce type, je vous ai dit que ça serait la dernière. Mais en fait, il y en a une autre aujourd'hui, et je crois que pour le coup, ce sera la dernière. Donc vous savez que la commune s'est lancée dans un dossier, dans un projet FISAC, qu'il a été déposé en 2011 et qu'il a été accepté, validé par les différentes instances, dont le conseil municipal en juillet 2014, et que depuis, nous avons examiné un certain nombre de dossiers de commerçants et d'artisans saint-rémois qui ont fait des investissements et qui ont pu bénéficier, grâce à ce fonds FISAC, d'une subvention à leur investissement. La dernière fois qu'on avait examiné une délibération comme celle-ci, je vous avais dit que c'était la dernière parce que la ligne de trésorerie était complètement utilisée. Mais en fait, il se trouve qu'un des dossiers déposés lors de la précédente délibération n'est pas allé au bout. Le commerçant a renoncé à son projet. Donc, du coup, il reste un petit budget de 4 617 €. Et ce qui vous est proposé ce soir, c'est donc de le voter pour le fonds et pour le dossier déposé sur le commerce de Madame Ferreira.
Parfait. En complément de ce que vient de dire Yves Faverjon, pour vous dire que j'ai eu le plaisir de visiter ce spa samedi dernier, à leur invitation, samedi après-midi. Il y a 10 personnes qui travaillent. Ils ont créé 10 emplois. Donc 4617 euros, je pense que ce seront les bienvenus. Vous divisez par 10, ça fait 461 euros par emploi ou 462. Franchement, on les donne volontiers. Voilà, c'est une entreprise dynamique dans un secteur non délocalisable. On peut passer aux voix sur ce dossier FISAC. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, la dernière délibération qui vous est proposée ce soir est en fait une motion. Donc, une motion pour refuser l'intégration des communes du Pays d'Arles dans la métropole Aix-Marseille et Provence. Alors, pourquoi cette délibération arrive ce soir ? Parce que il y a eu pas mal de remous autour de la métropole. Et ce jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque 5 députés des Bouches-du-Rhône ont déposé un premier amendement. Donc ce premier amendement, bon, nous excluait de la métropole, donc celui-là, on peut considérer qu'il ne nous concernait pas directement, et celui-là n'était pas trop méchant pour nous. Je vais vous lire les trois premières phrases de l'amendement qui a été déposé. Mais ce n'est pas celui-là qui a été adopté, c'est là où se pose le problème. Donc les trois premières phrases, c'est le gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2017 un rapport relatif à l'opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d'Aix-Marseille et Provence sur le périmètre de la métropole actuelle. Donc bon, ça concernait le département et la métropole sur le périmètre de la métropole actuelle. Nous, on était oubliés et bon, finalement, c'était pas plus mal. Donc ça, c'est l'amendement qui a été déposé. Le problème, c'est que l'amendement qui a été accepté, c'est pas celui-là. C'est un amendement qui a été présenté par M. Menucci, rapporteur, et M. Le Bouillonnec, rapporteur. Donc cet amendement, je vous lis les trois premières lignes. Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport relatif à l'opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole Aix-Marseille et Provence. Et il n'y a plus le petit bout de phrase sur le périmètre de la métropole actuelle. Évidemment, ça change tout, parce que l'amendement qui a été adopté, il sous-entendrait que la métropole, ce serait l'ensemble des communes du département. Et ça, évidemment, pour nous, c'est inacceptable. Donc il y a eu un article dans la Provence. Je pense que le journaliste n'a peut-être pas eu les deux amendements ou n'a pas fait les recherches aussi poussées que ce qu'on a fait nous, parce que dans son article, il a écrit « En cause d'un article demandant d'ici septembre 2017 un rapport sur la faisabilité d'une fusion entre métropole et département, hors les 29 communes du Pays d'Arles qui resteraient libres ». C'est pas ça. Hein. Je le dis au monsieur de la province, je me suis permis d'appeler monsieur Tonneau en lui disant « Attention, c'est pas ça qui a été adopté ». Si ça avait été le premier, bon, à la limite... Concernant dans la métropole et le département, bon, très bien, hein, ça les regarde, qu'ils en discutent entre eux. L'amendement qui a été adopté, il laisse pas libre les 29 communes hors métropole, puisqu'il n'y a plus justement les 7 mots qui changeaient tout, quoi. Il n'y a plus sur le périmètre de la métropole actuelle. Il n'y a rien, donc c'est l'ensemble du département. Voilà. Donc, comme on veut absolument que les choses soient claires, hein, donc une conférence de presse, ça n'est suivi. Demain, les deux députés du Pays d'Arles, donc messieurs Vauzel et Rennes, vont déposer des amendements croisés. Chacun a signé l'amendement de l'autre. Et ils vont demander le retrait de cet amendement, donc enfin, en tout cas sous cette forme. Donc ce soir, ce qui vous est proposé, c'est de voter une motion de refus d'intégration des communes du Pays d'Arles dans la métropole. Écoutez, je vais pas vous rappeler hein, tous les désagréments que nous apporterait le fait d'intégrer la métropole. Mais bon, en termes de gouvernance, aujourd'hui, la métropole, ce sont 240 élus métropolitains, dont 107 Marseillais. Toutes les communes, à part celles qui ont plus de 25 000 habitants, elles ont un représentant par commune. Donc, CRMI sera représenté par une personne sympathique. Donc en termes de gouvernance catastrophique, en termes de fonctionnement, nous on se réunit une fois par mois au conseil municipal, au conseil communautaire de la communauté de communes, 30 000 habitants, on se réunit à peu près une fois par mois, sauf en ce moment où, comme il y a des transferts, il faut qu'on se réunisse plus souvent. La métropole, 2 millions d'habitants, ils se réunissent en gros 4 fois par an, c'est-à-dire le minimum légal une fois par trimestre. Ils passent 300 dossiers dans la séance, donc personne, en gros, personne ne voit rien, quoi. Tout se passe au niveau du bureau, puisqu'ils ont délégué comme compétence au bureau le vote des subventions. Donc même les subventions ne sont pas vues en conseil métropolitain. Tout ça, ça se décide au niveau du bureau. Donc il n'y a pas de discussion en conseil métropolitain, puisque c'est le bureau qui a la compétence. En gros, il reste au conseil métropolitain, en gros, hein, je schématise, il reste le vote du budget et le vote des comptes administratifs, quoi. Plus quelques autres petites bricoles, mais bon, voilà, quoi. Donc c'est trop gros, trop important, et du coup, l'assemblée communautaire n'a pas le temps de travailler sur tous les dossiers. Tout est délégué au bureau ou au président, donc ça me paraît pas une forme de gouvernance recevable. Concernant les compétences, vous savez que la métropole a pratiquement toutes les compétences des communes, hein, y compris la voirie, même si ça risque d'être repoussé jusqu'en 2020, mais un jour la voirie sera de compétence métropolitaine. Donc qu'est-ce qui restera au maire, sachant que les cimetières, etc., tout ça sont déjà transférés à la métropole. Donc bon, c'est dévitalisation totale des communes. Donc compétences, gouvernance, déjà il y aurait suffisamment à dire pour rejeter. Mais le pire, c'est quand on regarde les finances et la fiscalité. Donc j'ai parlé l'autre jour dans la presse de massacre fiscal pour la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Les personnes qui m'ont dit « tu allais un petit peu fort ». Écoutez, je vous laisse juger. Hein. Taxe d'habitation, au niveau de la communauté de communes, on est à 9,97. La métropole est à 11,69, donc 17% de plus. Taxe sur le foncier bâti. Ils ont une taxe additionnelle de 2,59%. Nous, on n'a pas de taxe additionnelle au niveau de la communauté de communes. On est à 0%. Donc là, ils sont à 2,59. Vous faites le calcul sur les bases des 45 millions d'euros de la communauté de communes. Ça fait plus d'un million d'euros. Donc 1 million d'euros sur la taxe d'habitation, 1 million 165 000 euros sur le foncier bâti. Sur le foncier non bâti, là aussi, ça générerait une augmentation de 30,5%. Bravo et merci pour les agriculteurs. Et quant à la cotisation foncière des entreprises, chez nous, à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, c'est la plus basse de tout le département. Elle est à 24%. À la métropole, elle est à 31,02%. Donc une augmentation de 29,27%. Donc là aussi, ça ferait un peu moins d'un million d'euros de plus pour l'ensemble des entreprises artisans, enfin bref, ceux qui payent la CFE sur le territoire de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Donc rien que sur ces quatre taxes, on est à peu près à 3 millions d'euros supplémentaires. Vous faites la division, 30 000 habitants, 3 millions d'euros, ça fait à peu près 100 euros de taxes par habitant et par an. Là, je ne compte pas le versement transport, qui sera appliqué immédiatement, donc à hauteur de 2% pour toutes les entreprises et toutes les collectivités qui ont plus de 10 employés. Si on prend les ratios de la métropole, c'est 175 euros par habitant. Vous multipliez donc par les 30 000 habitants des Bouches-du-Rhône. En gros, entre taxes et versement transport, on arrivera à peu près à 8 millions d'euros de plus de fiscalité pour l'ensemble des entreprises et des habitants de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, c'est-à-dire en gros 280 euros par habitant. Et là, j'ai pas compté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce que bon, elle était de 18,10% à Marseille. Aujourd'hui, elle est de 160 euros par habitant pour les habitants de la métropole. Nous, on est beaucoup plus bas, on doit être à, je sais pas, 120 ou 125. Donc ça, je l'ai pas compté parce que sinon, je perdais les derniers cheveux qui me restent, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Dernier mot, c'est sur l'endettement. La métropole, elle est endettée à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Ça fait 810 euros de dette par habitant. Il y a 1 850 000 habitants. Hein. Donc ça fait 810 euros de dette par habitant au niveau de la métropole. Hein. Nous, à la CCVBA, on est à zéro. On n'a aucun emprunt sur le budget principal de la commune. Donc on mutualiserait évidemment les 810 euros avec nos 0 euros. Mais comme d'un côté, il y a 1 850 000 habitants et chez nous... 30 000 habitants, évidemment, le chiffre serait très proche des 810, comme vous pouvez l'imaginer, quoi. Voilà. Donc, on pourrait en parler pendant 3 heures, hein, mais bon, pour toutes ces raisons, gouvernance, compétences et surtout finances, et ça rime, eh bien, bon, je pense que vraiment, il faut absolument pas qu'un jour on rejoigne la métropole. Et c'est pour ça que je vous propose d'adopter cette motion.
Alors, nous vous avons écouté religieusement et il est évident que nous sommes d'accord. Nous sommes d'autant plus d'accord que tout à l'heure nous n'étions pas d'accord avec vous sur le fait d'abandonner ce droit de préemption. Je ne comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi. Vous nous dites que vous êtes en maîtrise, que vous maîtrisez la situation. Je vous signale qu'il y a un candidat à la présidentielle qui a officialisé la métropolisation de tous les départements, c'est-à-dire métropole-département, et qui s'appelle Macron. Donc Macron est l'ancien ministre des Finances de M. Hollande. Je vais faire un peu de politique politicienne. M. Mennucci, je pense ne pas me tromper en disant que c'est un socialiste historique. Et donc, qui sont vos anciens amis, on peut le dire quand même, ou vos amis toujours, je ne sais pas. Et ce sont des gens, donc, avec lesquels vous n'êtes plus d'accord. Et je vous comprends. Et je suis d'accord avec ça. Imaginons que ce soit pareil en communauté de communes, quand vous nous annoncerez qu'effectivement vous en avez perdu la maîtrise et que du coup, on aura perdu, nous, Saint-Rémois, la maîtrise de l'installation de nos entreprises. J'aimerais que vous m'expliquiez.
On ne va pas refaire le débat de tout à l'heure. La communauté d'agglomération du Pays d'Aix, avant d'intégrer la métropole, elle a rapatrié tout ce qui concerne la culture sur son territoire. D'accord ? Toutes les... comment dire ? Toute la compétence culturelle et tous les bâtiments que gérait la communauté d'agglomération pour le compte de la ville d'Aix ou directement en tant que communauté d'agglomération, tout ça, cette compétence, ils l'ont ramenée à la commune avant de passer à la métropole parce qu'ils souhaitaient conserver la gestion de tout ce qui était équipement culturel. Il est bien évidemment que si un jour ça doit nous arriver, alors je ne le souhaite pas et je continuerai à me battre comme je l'ai toujours fait de la manière la plus énergique possible contre, évidemment, mais si un jour ça doit se faire, eh bien, vous inquiétez pas, on prendra nos dispositions avant. Encore une fois, je vous le répète, la délégation de compétences, de préemption à la communauté de communes sur les zones artisanales, ça pose aucun problème. Et si un jour il y a le moindre danger ou le moindre risque, vous inquiétez pas, on fera de la prévention comme l'ont fait les autres intercommunalités. Ceci dit, je reviens à la motion qui vous est proposée. Il vous est proposé d'adopter une motion contre la métropole. Vous avez voulu rentrer dans le débat politique national. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit forcément passionnant. Mais moi, je vous rappelle que j'ai abandonné mes amis et la formation politique à laquelle j'appartenais sur ce thème. Sur le thème de la métropole, sur le deuxième thème, j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer ici, sur le deuxième thème, la baisse de dotation aux collectivités, que je n'ai pas accepté non plus, et sur un thème plus local, qu'il s'agissait de découpage incohérent des nouveaux cantons, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, c'est moins important. Mais sur la métropole, ce qui se passe en ce moment et comment fonctionne la métropole, ou tout au moins comment elle a démarré à fonctionner, ça ne fait que me conforter dans la position que j'avais il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, et depuis toujours, hein, si on peut dire les choses comme ça. Voilà. Après, si on veut rentrer dans le débat des candidats à la présidentielle, moi, je peux vous citer un candidat qui veut fusionner les départements avec les régions. Hein. Il vient d'être désigné il y a 15 jours lors d'une primaire. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une meilleure chose. Il veut même fusionner toutes les communes dans les intercommunalités pour garder que 6 ou 7 000 entités en France.
Mais monsieur le maire,
je ne suis pas beaucoup plus d'accord là-dessus qu'avec Macron. Hein.
Vous savez bien que c'est la pente gentille vers laquelle on nous amène. La disparition des communes au profit des intercos, vous le savez bien. Et vous pourrez résister tant que vous voulez. J'ai essayé de le faire dans plusieurs conseils municipaux. J'ai essayé de le faire en conseil communautaire. Je m'aperçois que, a priori, vous gérez. Mais par contre, je peux vous dire que moi, je suis inquiet.
Bien, sur cette motion, est-ce qu'on peut passer aux voix ? Alors, qui est contre cette proposition ? Abstention ? Unanimité. Alors, on passe maintenant aux questions diverses.
Alors, première question. Projet Arène Barnier. Ce projet de réaménagement a disparu des investissements au budget primitif 2016. Que comptez-vous faire de cet espace ? Envisagez-vous quelque chose de particulier et quand ?
Alors, concernant les arènes Barnier, effectivement, on a un projet qui a été élaboré par les services municipaux depuis, je ne sais pas combien, 4 ou 5 ans. Toutes les années, lors des arbitrages budgétaires sur la partie investissement, eh bien, on a considéré que d'autres projets étaient peut-être plus prioritaires que celui-là. Donc, ce projet, on va à nouveau en débattre pour 2017. Et puis, bon, on verra bien ce que la majorité municipale retient comme investissement. Hein. Vous savez, on est dans une équation qui est compliquée. Hein. Ça fait 3 ans qu'on tient sans toucher à la fiscalité, tout en continuant à désendetter la commune et tout en faisant en sorte d'investir de manière encore importante dans notre bonne ville de Saint-Rémy. Bon, cerise sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça, enfin, c'est pas cerise, hein, c'est œuf pourri sur le gâteau, on a depuis 4 ans de fortes baisses de dotation. Donc on est arrivé à tenir, sans toucher à la fiscalité, en désendettant et en continuant à investir. Et malgré ce, on a 1 600 000 euros de dotation en moins sur 4 ans. Bon, forcément, ça nous amène à faire des choix. Donc toutes les années, eh bien évidemment, comme on a plus d'idées que de moyens, toutes les années, on a, je ne sais pas moi, 50 projets, et puis on peut en retenir que 15, 20, 25. Donc on fait un choix, on établit des priorités. Donc ce soir, je ne peux pas vous dire si... les arènes Barnier se sont retenues dans les priorités 2017. Ce qui est sûr, c'est que la ville en est propriétaire. On a un projet, mais on verra bien si ce projet passe devant d'autres projets ou si eh bien, il est repoussé, et il est repoussé peut-être à plus tard. Voilà. Sachant que, en plus, vous savez qu'il y a eu entre-temps des négociations hein, concernant les arènes Barnier avec un propriétaire riverain, que malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, bon. Peut-être qu'aujourd'hui, le projet, il est moins intéressant que ce qu'il aurait pu l'être il y a quelques années, ou que ce qu'il aurait pu l'être si on avait réussi à faire l'acquisition des terrains à côté. Enfin bref, c'est de tout cela qu'il sera débattu pour la préparation du budget 2017. Donc je ne peux pas ce soir vous en dire plus.
Oui, il faut bien payer l'Alpilium, je comprends. Par contre, le projet en l'occurrence...
L'Alpilium, vous payez, monsieur Milan.
Donc, par contre, vous voulez pas nous parler un peu plus précisément de ce projet ? Ou alors...
Ce projet, il a été présenté au conseil municipal...
J'ai un défaut de mémoire, pardonnez-moi.
Non, mais c'est lors de la municipalité précédente, donc vous n'avez pas de trou de mémoire.
Ah.
Il s'agit d'un projet...
Vous me rassurez.
En gros, c'est un théâtre de verdure.
Voilà. D'accord. D'accord. Oui, mais enfin, bon, le passé, c'est le passé. Hein.
Le problème,
c'est quand vous êtes dans un nouveau couple, vous ne pouvez pas parler du passé. Hein.
Le problème, c'est un choix, c'est un arbitrage budgétaire. Voilà. Hein. Bon, moi, j'assume totalement le fait qu'il y ait des projets qui sont retenus et d'autres qui ne sont pas retenus. C'est un choix de la collectivité. Encore une fois, on tient la ligne, on désendette la commune, on continue à investir et on essaie de ne pas augmenter les impôts, malgré les baisses de dotation.
Sur ce point-là, on est totalement d'accord, mais simplement, on voit que rien n'évolue. Les Saint-Rémy nous interpellent, donc on vous pose la question.
Rien n'évolue à Saint-Rémy ?
Non. Pour les arènes, quand même.
Oui, les arènes. Oui.
Deuxième question ?
Ah, c'est à vous. Hein.
Allez. Plusieurs chaînes centenaires ont été coupées dans les Alpilles, dans la zone du champ de tir. Il semble que ce soit RDF qui ait fait procéder à ces coupes qui défigurent le paysage et troublent la faune sauvage. Avez-vous donné votre accord sur une telle opération et est-ce qu'il y a eu un suivi ?
Alors, la première personne qui m'a alerté immédiatement d'ailleurs sur ces coupes... inacceptable, hein, ça je partage votre avis, c'est Pierre Lapeyre qui m'a appelé. Je me rappelle, le jour où j'étais en voiture, j'ai eu du mal à parler au téléphone, c'est pas très c'est pas trop recommandé de parler au téléphone en voiture, donc je me suis arrêté au bord de la route évidemment pour discuter avec Pierre Lapeyre. Donc Pierre Lapeyre m'a appelé, non, plus sérieusement, il m'a appelé pour m'alerter là-dessus. Et j'ai dit, bon, écoute, il va falloir que je change de méthode avec eux, hein, et que à l'avenir, eh bien, on les voit auparavant, on les voit avant qu'ils entament pour leur donner un certain nombre de consignes et de recommandations. Et il y a un courrier qui est parti, mais Pierre Lapeyre connaît le dossier mieux que moi, puisque c'est lui qui est allé sur place et qui derrière a participé à la rédaction du courrier. Donc je lui laisse bien volontiers la parole.
Oui. Bonsoir à tous. Et à toutes, effectivement, en allant à la cabane, tout le monde connaît, je me suis aperçu aussi de ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est inacceptable de faire tels travaux, même au nom des OLD. Hein. Parce que il y a d'autres moyens de faire des OLD sans couper des chaînes, s'ils n'étaient pas centenaires, peut-être pas loin, de les couper au pied. Bon, mais il y a quand même un contrat qui a été passé avec le RDF. Et... comment dire, à un moment il y a décrit dessus, le propriétaire pourra communiquer au syndicat mixte de défense et la valorisation forestière les coordonnées téléphoniques s'il souhaite être prévenu des dates de travaux et il fera part des suggestions particulières grévant son terrain et des prestations à prendre pour prévenir à tout dommage à sa propriété. Alors ça, les services l'ont fait, ils ont donné le numéro de téléphone et l'adresse à cette société pour qu'ils nous avertissent quand ils allaient faire les travaux, et ils ne l'ont pas fait. L'entreprise ne l'a pas fait, alors on va veiller par le courrier qui a été fait par Gisèle, de façon que les prochains travaux, on soit averti. Surtout les travaux qui ne concernent pas l'aménagement forestier, où là c'est l'agent ONF qui y va. Voilà. Mais effectivement, c'est déplorable d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ça, on est tout à fait d'accord.
Ça serait peut-être l'occasion de leur demander aussi où ils en sont de l'enfouissement des lignes électriques, ce genre de choses.
Si vous permettez, pour compléter les propos de Pierre Lapeyre, ce à quoi vous faites référence, c'est une délibération qu'on a prise, alors je ne sais pas si c'est au dernier conseil municipal, je dois l'avoir d'ailleurs la délibération, ou à l'avant-dernier, qui concernait donc un conventionnement avec ERDF pour établir les OLD. Et comme l'a signalé Pierre, en fait, dans cette convention qu'on a signée, laquelle on a délibéré, il était bien écrit qu'il devait conserver des arbres de faible hauteur et espacés, voilà, qu'il devait faire ça raisonnablement. Donc cette convention a été prise très au sérieux par la municipalité et par les services qui ont suivi ça de très près, comme dit Pierre, puisqu'en fait, on avait bien fait rajouter, après l'avoir fait viser par notre gestionnaire, hein, à savoir l'ONF, qui devait prévenir 2 mois avant les agents de l'ONF pour faire le tour des parcelles qui étaient soumises au régime forestier. Seulement, voilà, ces 3 parcelles-là n'étaient pas soumises au régime forestier. Donc, en fait, l'agent de l'ONF ne s'est pas rendu sur place. Hein. Malheureusement, on s'en est rendu compte là. Mais sachant que, quand même, nos services avaient prévenu, déjà, le prestataire avec qui on était en relation, RDF, de nous prévenir, les services municipaux dès qu'ils intervenaient, que ce soit sur les parcelles aménagement forestier ou pas, ce qui n'a pas été fait. Donc, Pierre Lapeyre, donc, il a appelé le maire, il m'a appelé aussi, parce qu'il était vraiment tout bouleversé quand il a vu ça. Donc, bon, on a réagi de suite. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est quand même regrettable. Voilà, donc l'éco-garde a de suite appelé le contact, la personne, l'opérateur avec qui on était en contact. On a de suite fait un courrier pour faire part de notre mécontentement et la manière dont ça s'était passé, ce n'était pas satisfaisant, en demandant à ce que l'avenir, ça soit fait de manière différente, qu'on soit prévenu, parcelle aménagement forestier ou pas. D'ailleurs, ça montre l'intérêt d'avoir des parcelles d'aménagement forestier. Et pourquoi elles ne le sont pas, celles-ci? Parce que je me suis quand même posé la question, sans doute vous aussi, parce qu'en fait, l'ONF ne classe pas, dans le cadre de l'aménagement forestier, les parcelles proches du centre-ville, apparemment. Et comme c'est proche de la partie périurbaine, ces parcelles-là, il y en a d'autres. D'ailleurs, elles ne sont pas classées d'aménagement forestier. Voilà, c'était pour apporter le complément d'explication.
Moi, j'entends toutes ces explications, mais est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour, parce que la prochaine fois, ils refont pareil, vous savez très bien comment ça fonctionne. Ils missionnent des entreprises qui viennent couper. Donc, je pense
alors, c'est pas une entreprise, hein. C'est en fait, le syndicat mixte, c'est l'équivalent des forestiers sapeurs, sauf que c'est ceux du Vaucluse. Donc, c'est ça qui est d'autant plus surprenant. Voilà. Je partage votre surprise. Apparemment, on a été très surpris également de la manière dont ça a été fait, parce que je pense qu'il y a des spécimens qui auraient pu être épargnés, qui ne nécessitaient pas forcément, bon, d'être coupés. Bon, maintenant, on peut pas revenir en arrière. On essaie de prendre les précautions qu'on peut pour l'avenir. Après, en termes de poursuite, là, je sais absolument pas ce qu'on peut faire comme poursuite contre un syndicat mixte de gestion forestière, qui est un organisme public, hein. Voilà. On ne peut que le déplorer et, voilà. Et faire part de notre mécontentement et demander ce que ce soit mieux pris en charge la prochaine fois.
Si en plus des Marseillais, maintenant, il faut se méfier des Vauclusiens, je ne sais pas où on va. Hein.
L'enfouissement de la ligne.
Oui, c'est ça qu'on fait.
Donc on a obtenu une bonne nouvelle qui est toute fraîche. Nous avons obtenu une subvention européenne donc du fonds FEDER via la région qui instruit les dossiers. C'est date du 8 décembre, dont le projet va bien pouvoir démarrer maintenant avec les travaux qui sont prévus là pour 2017. Et l'enfouissement va pouvoir se faire puisque le plan de financement est bouclé. Donc c'est un très très long projet qui a été mené conjointement avec le parc, la commune et ERDF et qui va voir le jour là concrètement. Voilà.
Je reviens deux secondes sur le dossier. Donc est-ce qu'il y a d'autres lignes qui vont être de nouveau dégagées ou ils ont fini leur travail? Ouais.
Pardon, vas-y.
Par rapport aux lignes, partout où il passe des lignes, si ça n'a pas été fait ultérieurement, oui, effectivement, il y aura des... Mais qui passent... je crois que toutes les autres passent dans des endroits où c'est régi par le régime forestier, quoi. C'est-à-dire c'est l'ONF qui va marquer les arbres qu'il a coupés et c'est plus l'entreprise qui fait ce qu'elle a...
Mais tu sais, à minima, Pierrot, ce que je ferais, si j'avais la possibilité, ça serait d'interdire à des sapeurs forestiers d'autres départements de venir travailler ici. Je veux dire, c'est un minimum.
Interdire, je ne sais pas, mais faire des travaux de la façon qu'ils
l'ont fait, ça, effectivement. Bien sûr qu'il n'y a, voilà, a rien d'obligatoire à l'interdit, mais je pense que c'est à minima un moyen de leur dire, maintenant, faites-le. Eh bien, de prendre des gens d'ici qui connaissent mieux le terrain que...
On puisse leur imposer ça. Hein. Enfin bon, après là, juridiquement, moi, je ne suis pas assez calé là pour...
Il ne s'agit pas de rentrer dans des arguties juridiques, mais c'est une question de... Vous avez fait une connerie, bah réparez-la, voilà. Après, c'est pas moi qui suis en charge. Je ne fais que m'indigner. Pour mieux comprendre la délibération demandant le renouvellement de la ligne de trésorerie, pourriez-vous nous donner la situation de cette trésorerie au 1er décembre 2016 ?
Oui, la ligne de trésorerie, elle était utilisée à hauteur de 500 000 euros au 1er décembre 2016. Et d'ici la fin de l'année, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas quand les virements ont été faits, elle va être à zéro de la mi-décembre jusqu'à la fin de décembre. Voilà. Tout ça parce qu'on a perçu le fonds de compensation de la TVA. Donc,
d'accord, la FTVA.
On va être dans l'ordre d'ici la fin de l'année. Voilà.
Et le fait de la renouveler, c'est que ça reste tendu?
Mais on en a parlé à plusieurs reprises. Les subventions des collectivités sur les travaux d'investissement, évidemment, elles arrivent une fois le service fait, donc plusieurs mois après que la dépense ait été effectuée. Donc, entre-temps, ça crée un décalage de trésorerie et c'est ce à quoi sert la ligne de trésorerie. Sachez encore une fois que c'est plus intéressant d'utiliser une ligne de trésorerie que de réaliser un emprunt en dur, puisque alors, cette année, on est à 1,05, ce qui, évidemment, est très, très bien. Mais l'année dernière, on était à 2,05, je crois aussi. Enfin, aussi, donc 2,05. Et donc vous prenez 1 million d'euros à 2,05, ça fait 20 500 euros dans l'année. Cette année, en utilisant la ligne de trésorerie à hauteur de 1 million d'euros, on en est à peut-être un petit peu moins de 10 000 euros de dépenses de taux d'intérêt. Donc vous le voyez, hein, 20 500 euros d'un côté, moins de 10 000 euros de l'autre, c'est intéressant pour la collectivité. Même si par ailleurs on a des taux très bas, mais bon, ça c'est autre chose. Les taux sont très bas, mais la ligne de trésorerie est encore plus basse. Donc, ça n'est d'autant plus intéressant, d'autant plus que la ligne de trésorerie, elle n'est pas linéaire. Hein, elle n'est pas toute l'année à moins 1 million, puisque là,
D'accord.
On est le 13 ou le 14 décembre, et elle va être à zéro. Donc,
Et vous me certifiez donc, en fait, elle est utilisée que pour faire la soudure entre les investissements et les sommes d'argent récupérées. Alors, question rituelle là aussi, pourriez-vous préciser enfin le montant collecté en 2016 par la municipalité des droits de mutation? Bon, je sais que c'est peut-être un peu tôt.
On a les chiffres au 1er décembre. Au 1er décembre, on était à environ 800 000 euros. Ce qui veut dire, si on fait une règle de 3, hein, toute bête, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on devrait dépasser le chiffre de l'an dernier, qui, je vous le rappelle, était de 865 000 euros. Donc je pense que ce sera entre 170, 880, 900, puis je ne sais rien, hein, je ne lis pas dans la mare de café, mais je pense qu'on dépassera légèrement le chiffre de l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est qu'on dépassera notre inscription budgétaire, qui était de la Gentrou, 750, t'es correct ? Pardon ? 760. Je suis trompé de 10 000 euros. Qui était de 760, voilà.
D'accord. Alors, M. Gay avait une question à vous poser, si vous, vous en êtes
d'accord. Une question diverse, donc, qui a rapport aux pompiers et par rapport aux véhicules que le VSR qui est parti de Sérigny, vous nous avez annoncé par courrier qu'il sera remplacé par un véhicule de secours d'assistance aux victimes début de trimestre 2017. Promis, le véhicule de désincarcération, il y aura un nouveau véhicule qui allait venir sur Sérigny. Ce nouveau véhicule fera-t-il de la désincarcération ou pas? Puisqu'à aujourd'hui, il semblerait qu'il pourrait mettre médicalisé le véhicule d'assistance aux victimes, pourrait médicaliser les victimes, mais on serait quand même obligé de faire revenir un VSR de Sénaz, de Tarascon ou de Châteaurnard. Est-ce que vous en savez un peu plus?
Alors, écoutez, le soir de la Sainte-Barbe, le colonel Allion, donc le chef, le grand chef des pompiers des Bouches-du-Rhône, est venu annoncer l'affectation d'un véhicule à Saint-Rémy au premier trimestre 2017. Effectivement, je suis incapable de vous donner les caractéristiques techniques du véhicule, ce qu'il pourra faire, pas faire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment compétent ou technicien dans le domaine. Je ne sais pas si je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. On verra ce qui nous sera livré à Saint-Rémy. Après, vous le savez, hein, bon, moi j'étais pas favorable du tout à ce qu'on nous enlève le véhicule. Bon, la décision, c'est pas moi qui l'ai prise. Hein,
et surtout pour savoir le devenir qu'il a été fait de ce véhicule. Hein.
Comment ?
Surtout quand on sait le devenir de ce véhicule, qu'est-ce qu'ils en ont fait ?
Écoutez, monsieur Guy, vous prêchez convaincu. Hein. Bon, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire au moment du retrait de ce véhicule. Hein. Plus que ça, on ne pouvait pas faire. Hein.
Vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en ont fait du véhicule ?
Ah, vous en savez plus que moi, visiblement, dites-nous.
Ah, aujourd'hui, tout le matériel intérieur a été changé. Ils ont jeté tout le matériel qu'il y avait dans le véhicule. Et ils en ont mis du neuf.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Voilà. Hein. Bon. Bien, pas d'autres questions diverses ? Bon, ben, merci à tous. La séance est levée.